BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Ravi de vous retrouver, on vous accompagne jusqu'à 18h. C'est ici que la vient prendre la valeur dans le prix que lui donnent les marchés et à l'instant même Wall Street. Wall Street qui ouvre, vous l'entendez, la cloche retentit à l'ouverture de BFM Bourse également. On est vraiment synchronisé. 9h30 à New York, il est là, John Plassard pour Cité Gestion. Bonjour John.
Bonjour Guillaume.
Et Antoine Larigauderie en fil rouge. Bonjour Antoine.
Bonjour Guillaume.
Rebonjour. Après Tout pour investir ce matin, en podcast et replay, Antoine, d'ores et déjà.
Oh oui, on a beaucoup parlé d'NVIDIA. On va continuer à beaucoup parler d'NVIDIA pendant cette émission. Et puis on se posait la question de savoir si les hauts patrimoines français étaient toujours aussi obsédés par l'évasion fiscale qu'ils ne l'étaient avant la loi budgétaire 2026. Eh bien, on se rend compte que oui, absolument, ça reste une option qui est très sérieusement envisagée par bon nombre de patrimoines, non pas face à la fiscalité en elle-même, mais face au fait que la situation est tellement instable que sur le long terme, on ne voit pas ce qu'on est capable de faire et d'administrer dans ces conditions.
Bien.
À écouter, réécouter, mais ça en dit long sur le sentiment général autour de l'investissement et du patrimoine.
Wall Street vient d'ouvrir, Antoine. Comment ça se passe sur les marchés américains ?
Plutôt bien. On est sur une reprise assez générale sur les marchés et Wall Street participe à la Fed. Plus 0,55% pour le Nasdaq, plus 0,17% pour le Dow Jones, le S&P 500 plus 0,31%. Notre CAC 40 lui gagne 0,65% à 8034 points. Encore une très très forte performance des semi-conducteurs qui propulse l'Euronext Tech Leaders en hausse d'1,4%. Et puis sur le front des taux, ça s'apaise un petit peu. 3,78 pour la dette française 10 ans, 3,15 pour le 10 ans allemand et 4,65 pour le 10 ans américain.
Est-ce que, John, c'est intéressant de voir ces taux obligataires qui, alors même si ça se détend un peu là cet après-midi, reste quand même perché, les taux américains. Est-ce que, comme l'an dernier, à la même période après le Liberation Day, est-ce que, comme l'an dernier, on peut estimer que par une formule, une phrase, un coup de baguette magique, quelqu'un pourrait parvenir à apaiser ce marché obligataire cette année encore ?
Ah, pas vraiment, c'est une bonne question. Il faut juste remettre les choses en place. Après le Liberation Day, vous aviez les marchés effectivement qui avaient rapidement retrouvé le calme grâce à l'espoir de baisse de taux rapide de la Fed et puis aussi d'une fameuse désinflation qu'on était en train de voir. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Hein. On l'a redit et encore redit, si le détroit d'Hormuz rouvre demain, on ne va pas voir des prix du baril de pétrole qui vont revenir très rapidement au niveau où ils étaient en début d'année. C'est beaucoup plus complexe parce que on a une remontée des taux et vous l'avez justement noté avant Guillaume, qui touche en fait toutes les grandes zones économiques, hein, le Japon, les États-Unis, l'Europe et d'autres pays émergents. Et donc on est dans une situation où effectivement les marchés obligataires, eh bien, commencent à exiger des primes de risque plus élevées. On a des déficits budgétaires, on a des problèmes géopolitiques, et puis on a ce qu'on appelle la réflation géopolitique. Qu'est-ce que c'est que ce mot un peu barbare ? Eh bien, c'est les États qui commencent eux à avoir de l'inflation, mais qui sont obligés, parce qu'on est dans une situation géopolitique incertaine, eh bien, d'investir notamment dans l'armée, dans la défense. Donc, en fait, pour répondre, pour faire beaucoup plus simple, pour répondre à votre question, ce ne sera pas aussi facile que l'année passée de faire baisser dramatiquement ces rendements sur les taux souverains.
Et alors, une question d'un auditeur, Sam, il nous a écrit sur LinkedIn en l'occurrence, le dollar remonte, nous dit Sam, c'est vrai, il remonte depuis quelques jours, boosté par la remontée des taux. Est-ce une raison d'investir en dollars désormais si les taux obligataires venaient à continuer de progresser ? Est-ce que le dollar progresserait, en profiterait encore ? Et donc, est-ce qu'il faut, en tant qu'investisseur, choisir des investissements en dollars pour la suite, John ?
Alors, la réponse, elle est assez simple, il faut se diversifier. Hein. Enfin, faut pas tout avoir les œufs dans le même panier, c'est-à-dire pas tout en euros, même pas tout en francs suisses. Vous l'avez dit, la remontée des rendements américains redonne un avantage structurel au dollar. On a vu que le dollar, hein, qu'on disait, vous savez, on avait beaucoup parlé en début d'année de dédollarisation, là, on voit que le dollar agit comme une valeur refuge à l'heure où je vous parle, Guillaume. Eh bien, la paire euro-dollar a cassé les 1,16, on est en dessous des 1,16, donc il y a une forte structurelle du dollar. Et puis, vous savez, lorsqu'on revient sur les fondamentaux, eh bien, en Europe, on est dans une situation où, pour l'instant, les prévisions de croissance économique pour l'Allemagne sont de 0,5% cette année, alors qu'aux États-Unis, on est plus proche de 2%. Donc, on est dans une situation, effectivement, où, pour un Européen, pour un Suisse même, il y a un espèce de double effet. Il y a le rendement obligataire et puis il y a l'effet de chance qui est positif. Mais ce qu'il faut faire attention ici, c'est que c'est peut-être la moins mauvaise monnaie et pas la meilleure monnaie. Et d'un autre côté, ça, c'est la chose qu'il faut jamais oublier, c'est que vous avez des pays émergents qui sont très endettés en dollars. Donc plus ça monte, plus ils sont à risque. Donc faire aussi attention à ça.
Wall Street vient d'ouvrir donc en légère hausse. Le Nasdaq gagne 0,6% avant Nvidia qui va publier ce soir. C'est quand même le grand rendez-vous de la semaine ce soir, ses résultats. Est-ce qu'Nvidia sera plus fort que le marché obligataire? Est-ce qu'Nvidia, sur sa publication, pourrait redonner de l'allant au marché malgré les taux obligataires élevés, John?
La réponse est oui, mais vous savez, on en parlait, Applied Materials, on a regardé hier soir, la semaine passée, pardon, les chiffres qui étaient extrêmement bons, ils ont même avancé d'une année leur prévision, et on a vu que le titre était en baisse. Donc, faut vraiment faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va regarder les chiffres d'affaires qui doit s'approcher des 79 milliards de dollars. C'est près de 79% de croissance sur un an. Vous avez entendu, près de 80% de croissance du chiffre d'affaires, eh bien, par rapport à un an. Mais le chiffre qui sera probablement le plus surveillé, c'est celui des revenus des fameuses data centers, environ 73 milliards de dollars, soit environ 87% de hausse annuelle. 87% de hausse annuelle. Puis j'aime bien toujours rappeler une chose sur la marge brute ajustée de Nvidia qui est proche de 75%. Imaginez n'importe quel secteur qui voudrait avoir une marge extraordinaire, 75%. Donc évidemment, on aura des bons chiffres. Le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on va l'anticiper. Maintenant, une autre chose qui est claire, c'est que si les chiffres sont en dessous des attentes, alors là, ça va faire très mal et on pourrait voir le chiffre dévissé de 10%, voire plus. Il y a plein de questions sur la Chine, sur les restrictions américaines à l'exportation, sur la montée en puissance de AMD, hein, le petit AMD qui n'est pas si petit, mais qui fait de plus en plus de concurrence à Nvidia, et puis aussi sur les puces développées par certains géants du cloud eux-mêmes. Donc plein de questions, et on espère que la réponse sera positive pour les marchés.
Ce sera passionnant ce soir, Nvidia va publier ses résultats après la clôture, un titre est volatile, hein. Il gagnait 0,8% il y a deux minutes, il gagne plus que 0,1% en ce moment. On sent qu'il y a des gros arbitrages là, certains qui tentent des coups avant la publication. Et dans quelques jours, quelques semaines, SpaceX à son tour s'introduira. La grande question, avant de savoir quel montant, quelle date pour SpaceX, la grande question c'est savoir qui sera désigné à la tête du placement, qui va placer cette introduction qui mènera la danse dans l'univers des banques d'investissement. Goldman Sachs, on en entend parler, John?
Oui, de plus en plus. Hein. C'était une rumeur cette nuit. Apparemment, la rumeur est confirmée. Alors, il faut voir, c'est les journaux qui disent ça. Et il faut rappeler que c'est loin d'être symbolique, hein, parce que c'est la banque qui pilote l'opération, structure le placement et puis capte la plus grande visibilité mondiale autour de l'introduction en bourse. Alors, juste quelques chiffres qui paraissent aussi assez fous. SpaceX, on le sait, vise une levée de fonds d'environ 75 milliards de dollars, hein, pour une valorisation proche de 1750 milliards de dollars. Et lorsque vous avez une introduction en bourse classique aux États-Unis, bien les banques qui participent donc à la mise à l'IPO, les chefs de file, ben ils prélèvent généralement entre 1 et 3% du montant levé sous forme de commission. Donc on revient aux chiffres. Si SpaceX lève 75 milliards de dollars, eh bien les commissions pourrait aller de 750 millions à 2,2 milliards de dollars. Alors évidemment, ça va pas tout aller pour Goldman Sachs, parce que vous avez d'autres banques qui rentrent dans la danse, Morgan Stanley, JP Morgan, Citigroup, mais, et c'est là qui est important, c'est ça l'important pour le chef de file, c'est que il pourrait normalement et potentiellement avoir 15 à 25% du total des commissions. Donc, c'est pas rien. Et donc, c'est très important, notamment pour les futurs résultats de Goldman Sachs du deuxième trimestre.
Et ça compte, hein. Tout compte, effectivement. Dans la tech, parce que dans la tech, la Terre n'arrête pas d'accélérer, de tourner de plus en plus vite, on a ces arbitrages annoncés par un hedge fund, celui de Leopold Aschenbrenner. En fait, c'est un ex-chercheur d'OpenAI qui a publié donc ces arbitrages, les arbitrages de son fonds d'investissement du premier trimestre, et il y a vraiment des leçons à en tirer, John, en l'occurrence.
Ouais, alors juste à rappeler, hein, situational awareness, j'arrive pas à le dire. Bah, à la base, c'est un investisseur sur l'intelligence artificielle. C'est lui qui se décrit comme ça, ultra long terme. Donc effectivement, c'est très intéressant de regarder. Et le premier enseignement qu'on a, c'est qu'ils n'achètent pas que du Nvidia. Et ça, c'est très intéressant parce que le véritable pari pour lui, et on vient de voir la composition de son portefeuille, ben c'est la transformation complète de l'économie mondiale autour du calcul, de l'énergie, des réseaux, de l'infrastructure critique et puis de la souveraineté technologique américaine. Donc lorsqu'on regarde, ben, il y a plusieurs positions importantes qui sont liées à l'infrastructure critique de l'intelligence artificielle. Broadcom, Arista, Vertiv. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est dans une situation où lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il n'y a pas seulement un nom qui sort, mais vous avez aussi des noms au niveau de l'électricité, de l'électrification. Et donc, on est dans un hub global où aujourd'hui, investir dans l'intelligence artificielle, eh bien, c'est utiliser tout un réseau global de puces, de semi-conducteurs, de cloud, de data center, et puis évidemment d'électrification. Et ça, c'est vraiment l'enseignement qu'on a parce que aujourd'hui, eh bien, il y a une sélection naturelle d'une certaine manière qui est en train de se faire.
Oui, on en reparlera d'ailleurs dans la suite de BFM Bourse. Donc, les arbitrages réalisés par cet ex-chercheur d'OpenAI dans l'univers financier, dans la tech en particulier, la tech qui bouge au point qu'en Corée du Sud, on s'enfonce vers la grève chez Samsung à partir de demain. Alors, quel rapport avec l'IA, le boom des marchés financiers et cette grève qui menace Samsung?
Ouais, déjà, c'est assez rare. Hein. Il y a rarement des grèves eh bien, chez Samsung en Corée du Sud. Et là, vous avez quand même 50 000 employés de Samsung Electronics qui sont susceptibles de cesser le travail pendant 3 semaines. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils veulent faire grève? Bah, d'abord, ils veulent des hausses salariales de 7%. Ils veulent la suppression du plafonnement des bonus et surtout l'allocation de 15% du bénéfice opérationnel aux primes après l'explosion des profits liés à l'intelligence artificielle. Alors, vous allez me dire, oui, c'est une entreprise comme une autre, mais non, c'est pas ça, puisque Samsung représente près d'un quart des exportations sud-coréennes et c'est le plus grand fabricant mondial de puces mémoire. Et si on va un peu plus loin, ça dépasse Samsung parce que le groupe représente à lui seul près de 13% du PIB sud-coréen. Et les puces mémoire comptent près de 35% des exportations du pays. Donc si Samsung fait grève pendant 3 semaines, on espère qu'il y aura une résolution avant, eh bien on pourrait avoir une perturbation encore plus grande que ce qu'on a actuellement sur les semi-conducteurs, mais aussi un impact économique direct sur la Corée du Sud.
Oui, et justement, en matière d'emploi, alors les impacts sociaux, on le voit, des revendications parmi les salariés, les employés de ces grandes entreprises de la tech, et puis l'impact à venir sur le marché de l'emploi au global. Vous venez nous parler aujourd'hui, John, d'une enquête choc qui, cette enquête, va à l'encontre de ce qu'on pourrait penser.
Ouais, c'est la plus grande enquête qui a été lancée aux États-Unis sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Je vous rappelle quand même que l'OCDE avait dit notamment l'année passée qu'il y aurait des centaines de millions de postes qui sont potentiellement affectés par l'automatisation de l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Eh bien, dans cette enquête, vous avez les sociétés qui utilisent activement aujourd'hui l'intelligence artificielle qui sont prêts de 3 fois plus à prévoir d'augmenter les recrutements de jeunes diplômés en 2026 que de les réduire. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez 47% des entreprises qui anticipent une hausse des embauches, ce qu'on dit les juniors, contre seulement 17 qui envisagent une baisse. Donc, on est dans une situation où, effectivement, ça va à contre-courant de ce qu'on dit et ça montre que l'intelligence artificielle ne remplace pas automatiquement l'humain, en tout cas aujourd'hui, mais transforme surtout les compétences recherchées par les entreprises. Donc, c'est très intéressant de noter ça parce que on en parle, évidemment, on n'en parle pas assez.
Et personne ne remplacera nos auditeurs et téléspectateurs. Les questions que vous nous adressez régulièrement, continuez. Tout à l'heure, d'ailleurs, Gwendal Dobrecht-Schall et nos experts répondront à toutes ces questions que vous nous envoyez, très nombreuses, en flashant, scannant le QR code qui apparaît là à l'écran. Si vous suivez à la radio, on est aussi disponible en replay. Et ces QR codes pour nous adresser vos questions sont visibles en replay et bien sûr téléchargeables. Merci beaucoup, John Plassard, depuis Cité Gestion. Le CAC gagne 0,8%. On est en hausse aussi, légère hausse à Wall Street. Le S&P gagne 0,3%. Et Benjamin Louvet nous rejoint. Il est 15h44. Bonjour, Benjamin. Alors, auteur, hein, Benjamin, de Métaux, le nouvel or noir, aux éditions du Rocher, et vous êtes aussi directeur des gestions matières premières d'Ophi Invest AM. Vous allez, face au marché, Benjamin, rendre votre verdict. Ce verdict que vous allez rendre, est-ce que vous l'assumez? On vous écoute.
Eh bien, ce verdict, c'est que le prix du pétrole à terme, contrairement à ce que beaucoup croient, ne nous dit rien des prix du pétrole pour la fin de l'année.
Ah, alors c'est pas une bonne nouvelle, ça. Les prix à terme sur le pétrole ne sont pas annonciateurs d'une baisse à venir, du coup, des prix court terme.
Exactement, parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle dans le domaine des matières premières une courbe en backwardation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que acheter du pétrole aujourd'hui coûte plus cher que d'acheter du pétrole dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et donc, beaucoup de gens y voient un signe positif en se disant, bah, ça veut dire que le marché est tendu pour l'instant, mais qu'on se dit qu'après coup, tout va bien se passer et que les prix vont retrouver un niveau normal. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, historiquement, quand on regarde, la courbe de prix à terme du pétrole n'a jamais été un bon indicateur, historiquement, de l'évolution des prix du pétrole. Et en fait, ça sert pas du tout à ça. La courbe de prix à terme du pétrole, elle est liée à une logique simple. Il ne doit pas être plus intéressant d'acheter du pétrole tout de suite ou d'acheter du pétrole à terme. Donc, quand vous achetez le pétrole tout de suite, vous allez devoir tout payer tout de suite et vous allez devoir stocker ce pétrole. Donc, normalement, le prix à terme, il vaut le même prix que le prix comptant, auquel vous allez devoir ajouter le coût de stockage et le fait que, comme vous ne payez pas tout de suite, vous allez pouvoir placer cet argent. Donc, normalement, le prix à terme est plus élevé que le prix comptant. Mais quand on arrive dans une situation de stress, comme c'est le cas en ce moment, en fait, la courbe de prix à terme, elle sert d'instrument pour rééquilibrer le marché. Comment ça marche? Simplement, le prix à court terme va devenir plus élevé que le prix à long terme. Pourquoi? Parce que, en fait, les personnes qui ont besoin de pétrole disent « Je m'en fiche du coût de stockage, je m'en fiche du manque à gagner financier, je veux être sûr d'avoir mon pétrole parce que j'en ai besoin. » Et à ce moment-là, la courbe s'inverse et le prix à terme est moins élevé que le prix immédiat. Pourquoi? D'abord, pour inciter les producteurs à vendre un maximum de pétrole tout de suite. Si je le vends plus tard, je le vendrai moins cher, donc autant que je le vende tout de suite. Donc, on va comme ça ramener un maximum d'offres sur le marché, ce qui va permettre d'essayer de rééquilibrer le marché. Et à l'inverse, les prix à long terme baissent pour inciter ceux qui le peuvent à reporter leur achat à plus tard. Et comme ça, on arrive à équilibrer. Si je prends un exemple, Guillaume, on veut tous les deux partir en vacances, on arrive à une pompe à essence le soir, la veille de notre départ, tous les deux en même temps, et il ne reste de quoi faire qu'un plein. Un seul. Et on ne peut pas le diviser. Et donc là, j'ai une idée, je vous dis, écoute, je vais te proposer une chose. Si tu acceptes de revenir demain, la pompe sera remplie à nouveau. Si tu acceptes de revenir demain, je suis prêt à te donner 1 centime par litre d'essence. Vous allez me dire, c'est pas assez. Donc, ok, 2 centimes, 3 centimes, jusqu'au moment où, en fait, le prix du pétrole à terme va devenir beaucoup plus intéressant pour vous que le prix immédiat. Et donc, comme ça, on va pousser les acheteurs à reporter leurs achats, pousser les producteurs à vendre un maximum tout de suite, et ça va permettre de rééquilibrer le marché. Mais ça ne dit rien sur ce qui va se passer après.
C'est le mythe que vous êtes en train de débunker, parce qu'il y a un mythe comme quoi les prix à terme, effectivement, seraient annonciateurs des prix qu'on va payer concrètement, selon les trébuchants, là, à court terme, bientôt. Quoi. Les prix à court terme qui nous attendent, c'est pas vrai, en fait.
Si on essaye de clarifier tout ce que je viens de dire, ça veut dire que si le conflit au Moyen-Orient devait durer et qu'on avait une perte durable de ces 10, 11 millions de barils par jour que l'on a actuellement,
l'écart grandirait encore.
On aurait cette courbe qui resterait exactement comme ça et qui se déplacerait dans le temps.
C'est ça.
C'est simplement un mécanisme d'autodéfense de ce marché pour se rééquilibrer. Et ça ne dit absolument rien des prix futurs du pétrole. Je dirais même plus que si effectivement le conflit devait durer, on a utilisé aujourd'hui un certain nombre de ficelles pour combler le déficit de pétrole lié à la fermeture du détroit d'Ormuz, des libérations de stocks stratégiques, on a essayé d'augmenter la production dans certains endroits où on le pouvait, et ces ficelles, quelque part, elles vont finir par s'effilocher, et donc on aurait probablement une courbe qui devrait être encore plus pentue pour essayer de rééquilibrer encore plus le marché.
Ah, c'est très intéressant. Là, vous venez vraiment de débunker un mythe, effectivement, et puis une explication limpide, hein, comme vous en avez l'habitude, Benjamin. Mais il y a une question qu'on se pose du coup. On en est où, justement, des réserves? Imaginons ce conflit venait si ce conflit vient à durer encore. Parce que désormais, on est largement au-delà de ce qu'avait annoncé initialement Donald Trump, et quelque part, plus personne n'écoute. Hein, quand il dit oui, dans 2-3 jours, etc., en fait, voilà, on se dit que ça va durer. Combien de temps de réserve on a encore devant nous, du côté de l'Agence internationale de l'énergie, du côté des pays qui ont aussi leurs propres réserves?
Alors, on a un vrai sujet là-dessus, parce que en fait, il y a les réserves visibles qu'on estime aujourd'hui aux alentours de 8 milliards 300 millions de barils dans le monde. Le problème, c'est qu'en fait, dans ces réserves visibles, il y a une partie de ce pétrole qui est utile pour que le système fonctionne normalement. Parce que dans ces réserves visibles, vous avez le pétrole qui est dans les pipelines. Vous avez le pétrole qui est dans les bateaux, dont une partie sont bloqués dans le détroit d'Ormuz. Les grosses citernes que vous voyez où est stocké le pétrole, il faut savoir que le tuyau pour faire sortir le pétrole de ces grosses citernes, il n'est pas situé au niveau zéro de la citerne. Il est situé à peu près 50 cm au-dessus du plancher. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas vider complètement ces citernes. Quand vous mettez tout ça bout à bout, on estime que aux alentours de 8 milliards 100 de barils, on commence à stresser le système. Et à 7 milliards 600 millions de barils, niveau sur lequel, au rythme de sortie actuel, on devrait arriver dans le courant du mois de septembre, eh bien, on n'aura plus de réserves mobilisables simplement. Et donc là, on peut anticiper que le marché ayant toujours un peu d'avance, eh bien, quelque part dans le courant de l'été, les prix du pétrole pourraient monter bien plus fort si le détroit d'Ormuz n'a pas été réouvert d'ici là.
Antoine ?
Alors, on voit que même techniquement, la situation est extrêmement compliquée. On voit que techniquement, en matière financière, les positions sont prises avec des niveaux et une amplitude assez incalculables, ou difficilement. Moi, je me souviens d'un jour d'avril 2020 où, par des effets techniques totalement dingues, le prix du pétrole avait terminé en négatif. Mmh. Est-ce qu'on peut imaginer, si la situation perdure là et qu'il arrive des dingueries, comme on peut y assister du point de vue géopolitique, le prix du pétrole se mette pas, je sais pas, à exploser à 1000 dollars le baril ou des anomalies de ce genre? Est-ce que c'est
Alors,
possible?
C'est très peu probable, parce que ce qui avait entraîné des prix négatifs, c'est qu'à un moment, la production pétrolière, vous l'arrêtez pas en claquant des doigts. Et donc, à un moment, on s'est retrouvé dans une situation où les producteurs avaient du pétrole dont ils ne savaient plus quoi faire et dont il fallait qu'ils se débarrassent. C'est pour ça qu'ils étaient prêts à payer les gens pour qu'ils veuillent bien prendre leur pétrole. À l'inverse, dans le cas d'une hausse des prix du pétrole, à un moment, les acheteurs deviennent rationnels et se disent « à ce prix-là, ma production n'est plus rentable, prendre ma voiture n'est plus intéressant, et donc vous allez détruire de la demande ». Donc une hausse importante des prix du pétrole est possible, mais cette hausse, elle aura un plafond. Alors est-ce qu'il est à 150, à 200 ou à 250 dollars? C'est difficile de le dire. Mais 1000 dollars me semble être un prix où on aura...
Je dis
bien
ça
avant
ça.
Déjà,
mais oui,
atteint des niveaux de douleur, des seuils de douleur financière qui font que non, on est plutôt protégé contre une hausse des cours du pétrole sur ces niveaux-là.
Et parallèlement, quand même, la Chine, il y a encore des bateaux là qui manifestement parviennent à franchir le détroit d'Ormuz.
Il y a deux tankers qui ont réussi à passer le détroit d'Ormuz, effectivement.
Chine, voilà, pour approvisionner les Chinois.
On a vu Donald Trump est allé en Chine il y a quelques jours. Il est peut-être un peu difficile dans le contexte actuel pour Donald Trump de bloquer les bateaux chinois que les Iraniens laisseraient passer dans ce détroit. Et puis, au-delà de ça, la Chine est dans une situation aujourd'hui qui est beaucoup moins délicate que la situation européenne, par exemple, pour deux raisons principales. La première, c'est que ces dernières années, on en a déjà parlé ensemble, depuis 2022, la Chine a énormément accéléré sur la transition énergétique, donc elle a diminué sa dépendance aux énergies fossiles. Aujourd'hui, le pétrole ne représente plus que 25% de la consommation d'énergie en Chine. Et puis la deuxième chose, c'est que la Chine se prépare à ces situations-là depuis longtemps. Elle a d'énormes stocks. Elle avait des stocks officiels de 1 milliard 200 millions de barils. Mais quand vous regardez les stocks aujourd'hui et la consommation chinoise et les bateaux qui sont arrivés, il semble qu'il y ait peut-être des stocks qu'on ne voyait pas, peut-être stockés dans des cavernes souterraines, comme c'est le cas aux États-Unis, qui a été utilisé parce que les stocks ne descendent pas au même rythme que ce à quoi on serait en droit de s'attendre, compte tenu de leur consommation et du niveau d'importation qu'ils ont actuellement. Donc ils sont prêts et ils sont capables d'encaisser, entre guillemets,
ils ont même approvisionné il y a quelques jours l'Australie en pétrole.
Oui, ils ont même réouvert. Mais l'Australie est dans une situation qui est très délicate parce que peu de gens le savent, mais l'Australie est par exemple le premier pays importateur au monde de diesel. Et aujourd'hui, le problème qui se pose, il est, je dirais, moins sur le pétrole que sur les produits raffinés et en particulier sur le diesel et sur le kérosène, qui sont les carburants des moyens de transport des marchandises. Le diesel, c'est pour les bateaux, c'est pour les camions, le kérosène, c'est pour les avions, et tout ça, fait le mouvement des marchandises et donc fait l'économie mondiale. Mmh. Et donc la contrainte sur le diesel est un vrai sujet aujourd'hui.
Il y a une option, un scénario qu'on n'a pas évoqué, c'est imaginons d'un claquement de doigts, tout rouvre et la paix est signée demain matin. Voilà. Dans ce cas, les cours du pétrole s'effondreraient-ils ?
Alors, ils rebaisseraient, c'est une certitude. Ils ne retrouveraient sans doute pas leur niveau d'avant-crise, pour deux raisons. La première, c'est que même si tout rouvre demain matin, on peut imaginer quand même un certain nombre de séquelles et une certaine timidité d'un certain nombre d'exportateurs de pétrole dans un premier temps. La deuxième raison, surtout majeure, c'est qu'un certain nombre d'infrastructures ont été endommagées, un certain nombre de puits de pétrole ont été arrêtés, il va falloir les redémarrer. Et donc c'est le patron d'Aramco, quand il a présenté, donc la compagnie nationale saoudienne, quand il a présenté ses résultats il y a quelques jours, qui expliquait que dans le meilleur des cas, si la crise s'arrêtait demain, on en aurait jusqu'à la fin 2026 avant de revenir à un trafic à peu près normal. Donc on aura des prix qui resteront durablement plus élevés. Puis il y a une autre raison, c'est que malgré tout, ce genre de crise amène beaucoup de pays à faire des stocks de précaution. Et donc il n'est pas impossible qu'il y ait des personnes qui profitent de cette nouvelle baisse du pétrole pour reconstituer un petit peu leur stock. Et puis il va falloir aussi que les grands États qui ont libéré les stocks stratégiques reconstituent leur stock. Les stocks américains ne sont pas arrivés au niveau de 2022 quand il y a eu la crise russe, mais ils sont sur des niveaux très bas et ils se vident à vitesse grand V. Donc il va falloir à un moment remplir ces stocks à nouveau pour le cas où il y aurait une nouvelle crise qui apparaîtrait dans les années qui viennent.
Benjamin Louvet, Ophi Invest AM. Merci beaucoup, Benjamin. C'est le pétrole clair comme de l'eau de roche, là. On arrive à décrypter un peu ce marché grâce à vous régulièrement. Le CAC 40 est en hausse de 0,9%. Le S&P en hausse aussi aujourd'hui de 0,3%.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Pas besoin d'être triste pour bien investir. Au contraire, mieux vaut être curieux. Et pour être curieux, il faut savoir trouver la flamme en soi. Culture Bourse la rallume chaque jour, la flamme. Gwendal Dobrechal et nos experts vous répondent. Bonjour Gwendal.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et oui, pour allumer la flamme, on compte sur vous. Vous nous adressez vos questions à l'adresse mail bfmbourse@bfmbusiness.fr ou en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran.
Et Gwendal, cette question sur une small cap à la mode en ce moment.
Alors vous êtes beaucoup à l'avoir remarqué, notamment Tony. Donc la small cap qui cartonne en ce moment, c'est deux CRSI. On ne l'arrête plus 240% depuis le début de l'année, plus 2200% depuis 3 ans. On n'arrête plus donc ce fabricant de serveurs informatiques. Est-ce le moment d'ajouter la valeur en portefeuille ? On va poser la question à Thibaut François pour Fastea Capital. Bonjour Thibaut,
bonjour,
merci
bonheur
d'être avec nous. Alors le titre de CRSI continue de surperformer, comment vous l'expliquez ?
C'est simple, hein. Déjà sur le premier semestre de CRSI, ils ont fait x9 en termes de chiffre d'affaires, donc 900% de croissance, ce qui est plutôt pas mal. Sur le premier semestre, ils avaient annoncé 300 millions d'euros à peu près de chiffre d'affaires sur l'année 25-26. Finalement, ils ont révisé en hausse leur perspective de chiffre d'affaires à 400 millions, donc 100 millions de plus déjà juste sur la première partie de l'année. Et ils annoncent 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine. Donc la croissance est juste exceptionnelle. Alors bien sûr, c'est aussi lié à ce qu'on voit sur l'intelligence artificielle. Toutes les boîtes s'outillent et notamment cherchent des serveurs écologiques, économiques et en tout cas ils s'outillent. Et donc effectivement, on a une forte visibilité sur l'ensemble du business IA, que ça soit aux États-Unis mais aussi en Europe. Et de CRSI, c'est pratiquement la seule boîte liée un petit peu à l'intelligence artificielle et liée un petit peu aux serveurs dont ont besoin les Américains et les Européens pour pouvoir réagir à la demande qui est extrêmement forte. Donc de CRSI en profite largement aujourd'hui, la croissance est exceptionnelle. Allez, si on veut être un petit peu tatillon, ils ont un petit peu de mal à suivre en termes de marge. Les marges se tassent, forcément un tel niveau de croissance, c'est pas facile à financer. Et c'est vrai que ça s'est un petit peu tassé d'un point de vue marge, mais les niveaux de croissance sont juste stratosphérique sur le dossier de CRSI.
Donc, des signaux très positifs, un contexte très favorable pour de CRSI. Mais si on prend la question de Tony, donc, est-ce que on peut y aller sereinement sur le titre de CRSI actuellement ou faut-il encore faire preuve de prudence ?
Écoutez, sereinement, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'on était plus à l'aise à 25 ou 30 euros. Là, aujourd'hui, on est autour de 40 euros. Elle monte encore de 4 ou 5 % aujourd'hui. Maintenant, le momentum est extrêmement favorable sur le dossier de CRSI. Mmh. La croissance est au rendez-vous. Le carnet de commandes est plein. Ils révisent en hausse leurs perspectives. Donc, pour l'instant, on a plutôt envie de se laisser porter. On pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel sur de CRSI. Il faudra surveiller, bien sûr, les niveaux de marge et le financement de cette croissance. Mais c'est vrai que tout se passe bien aujourd'hui sur le dossier de CRSI.
Thibaut, vous restez avec nous, ça vous dit ?
Allez, avec plaisir, Guillaume.
Ouais, plaisir partagé, hein, vraiment, pour dans un instant parcourir ensemble cette séance, voir qui gagne, qui perd. Mais Culture Bourse, au-delà des réponses aux questions des auditeurs, Gwendal, c'est aussi de la très haute pédagogie financière.
Qu'est-ce qui est le plus rentable pour notre portefeuille, investir en bourse ou opter pour l'achat immobilier? Beaucoup de Français se posent la question et pour nous aider à faire le bon choix, on reçoit Benjamin Chemla, CEO et cofondateur de Shares. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Alors Benjamin, quand on compare bourse et immobilier sur les 20-30 dernières années, qui gagne vraiment?
Alors ça c'est la question qu'on se pose tous dans les dîners. Il y a évidemment les pros bourse et les pros immobilier. Mais si on prend les chiffres et uniquement et qu'on se tient qu'aux chiffres, sur les 20 dernières années, la bourse évidemment surperforme l'immobilier. On prend le S&P 500 comme exemple, sur les 20 dernières années, on est entre 9 et 10% de rendement. L'immobilier résidentiel en France, malheureusement, lui, en revanche, est plutôt autour de 4 à 6%. Donc si on s'en tient aux chiffres, c'est effectivement la bourse qui gagne.
Donc l'achat immobilier ne garantit pas forcément un gain aussi important que la bourse, mais il y a un gros avantage, c'est qu'on peut emprunter. Est-ce que l'effet de levier du crédit change tout?
Ah, ça change évidemment énormément. On oublie souvent ce point-là, et l'effet de levier change tout. Alors du coup, je suis venu aujourd'hui avec un exemple, ou plutôt deux exemples, de deux personnes avec 20 000 euros qui investissent l'un en bourse et l'autre en immobilier. Le premier investit en bourse 20 000 euros, on va dire sur un ETF monde, pendant 20 ans, avec un rendement moyen de 8%. Ça donne à l'arrivée 93 000 euros, donc on s'est enrichi de 73 000 euros. Le deuxième investit 20 000 euros, donc sur 20 ans, en apport avec 80% de dette, donc pour acheter un bien à 100 000 euros. On va considérer que le bien va prendre 3% de valeur sur 20 ans, mais il faut aussi anticiper les frais de notaire et les différents petits travaux, ce qui souvent font doubler à peu près l'apport. Donc finalement, c'est plus 20, mais 40 qu'il a fallu mettre. Donc avec un rendement de 3% par an sur 20 ans, à l'arrivée, c'est 180 000 euros. Donc si on fait la soustraction, on s'enrichit de 140 divisé par 2, ça fait 70. Et donc, la bourse gagne.
Donc la bourse a l'air de gagner à chaque fois. Comment arbitrer entre les deux? Finalement, c'est victoire pour la bourse.
Non, la réalité, c'est comme tout et toujours, c'est victoire pour la diversification. Il faut investir un petit peu partout. Et ce qui est certain, et il y a beaucoup de Français qui font ça, c'est que n'avoir qu'un bien immobilier, souvent sa résidence principale, c'est rassurant, mais c'est aussi extrêmement risqué puisqu'on concentre l'essentiel de son patrimoine dans un seul actif. Il y a des avantages fiscaux, il y a d'autres avantages, c'est pas l'objet de la discussion, mais ce qui est important, c'est de se rappeler qu'en bourse, on peut notamment par des ETF être exposé à 1500 titres et donc diversifié par design et aussi bénéficier davantage de liquidité puisqu'on peut liquider sa position quotidiennement.
Merci beaucoup Benjamin Chemla. Je rappelle que vous êtes CEO et cofondateur de Shares.
Merci Gwendal. Le CAC est en forme aujourd'hui. On est un peu en retard, c'est vrai. Avec Euronext qui est en tête du CAC. Là, Euronext a publié 4% de hausse ce titre. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut accompagner Euronext à la hausse? Dans un instant, nos experts vont répondre. On y consacre aussi un article. Tiens, bfmbourse.com pour le consulter. On se retrouve dans moins de 2 minutes. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Dans la vie, comme en bourse, rester immobile, c'est faire un premier faux pas. BFM Bourse, vous êtes donc à avancer, c'est chaque jour jusqu'à 18h. Bienvenue à tous, on vous accompagne, on est en direct et en fil rouge, Antoine Larigauderie. Rebonsoir Antoine.
Rebonsoir.
Votre mot du soir.
Booster, là les marchés ont allumé des feux supplémentaires. Le CAC 40 plus 1,5%, 8103 points, 2,5% de hausse pour l'Euronext Tech Leader, ce qui est vraiment tiré vers le haut par l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. ST Micro plus 6, Soitec plus 9. On a Wall Street qui est bien orienté aussi, plus 1,15 pour le Nasdaq, plus 0,7% pour le Dow Jones. Petite accalmie sur les taux obligataires, ça commence à se préciser et à devenir plus consistant. 4,6% pour le 10 ans américain, 3,72 pour la dette française 10 ans. Et le pétrole corrige un peu, enfin pas de manière spectaculaire non plus. $107 pour le Brent de mer du Nord et 100 pour le brut léger américain.
Légère détente obligataire, donc un peu de répit qui permet aux actions de repartir de l'avant. Le pétrole aussi se détend un peu. Certains navires, rares navires, parviennent à franchir le détroit d'Ormuz. Pourtant, les États-Unis disent avoir découvert une dizaine de mines dans ce détroit. Mais certains rares navires tentent le coup et parviennent à le franchir. On en parlera. Le pétrole à $107 en ce moment. De son côté, Nvidia va publier ce soir. Et la question qu'on va se poser, c'est de savoir si Nvidia, à lui seul, parviendra à redonner de l'optimisme au marché, malgré les taux donc très très élevés. Est-ce qu'Nvidia va battre les inquiétudes liées au marché obligataire? On anticipera cette publication, bien sûr. Et puis alors, ce pari d'un ancien d'OpenAI, un ancien chercheur d'OpenAI, il a créé son hedge fund et il a publié les arbitrages de son hedge fund du premier trimestre. Et il y a des arbitrages très intéressants, notamment au sein de la tech, de cet ancien chercheur d'OpenAI, de l'époque où OpenAI lançait la grande vague de l'intelligence artificielle. Intéressant de regarder comment lui voit l'avenir des valeurs tech en bourse. On en parlera notamment tout à l'heure à la clôture avec les experts de Zone Bourse. BFM Bourse, donc, sur toutes ces batailles de marché et BFM Business au cœur de toute l'actualité. À suivre aussi aujourd'hui, Emmanuel Moulin. Ouais, il sera Emmanuel Moulin, le prochain gouverneur de la Banque de France le 1er juin. C'est confirmé, sa nomination est désormais approuvée par le Parlement à l'issue de son audition. Il est l'ancien secrétaire général de l'Élysée et il s'engage à mener la politique monétaire de la France en toute indépendance. Emmanuel Moulin, donc ce nom auquel on apprendra à s'habituer à la tête de la Banque de France à partir du 1er juin. L'Union européenne a trouvé un compromis provisoire pour mettre en œuvre l'accord commercial avec Washington. Les États-Unis avaient donné aux Européens jusqu'au 4 juillet pour ratifier le texte. À défaut, ils menaçaient de nouveaux droits de douane sur les voitures. C'est désormais chose faite, donc l'Union européenne a trouvé ce compromis provisoire sur les droits de douane avec les États-Unis. Et puis dans l'actu des entreprises, Stellantis fait entrer le chinois Dongfeng dans son usine de Rennes. Un véhicule du constructeur chinois sera assemblé dans cette usine de Rennes et ce véhicule chinois pourra donc revendiquer le label Made in Europe. Les syndicats du site se félicitent, car pour le moment, un seul modèle Citroën sortait de ses lignes d'assemblage. Donc là, on aura un peu plus d'activité à venir sur le site de Rennes. Plus de détails, d'analyse surtout, ce sera dans 18-19 tout à l'heure avec Edwige Chevrillon. D'ici là, on est à vos côtés, BFM Bourse, on joue dans votre camp. Bienvenue à tous.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Nos experts du club, ils viennent de nous rejoindre. Rachid Medjaoui, directeur adjoint de la gestion privée de Louvre, banque privée. Bonsoir Rachid.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue. Et Benoît Pelloual. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Guillaume.
Directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Des marchés en hausse aujourd'hui, figurez-vous. Après les inquiétudes des derniers jours liées au marché obligataire, on reprend du poil de la bête. On respire à nouveau un peu. Le Nasdaq gagne 1%. Avant Nvidia ce soir, on en parlera. Et à Paris, le CAC 40 gagne carrément 1,6%. Est-ce que quelque part, Benoît, le marché se dit oui, les taux sont élevés, mais la croissance des entreprises, la croissance des bénéfices des entreprises va encore plus vite que la hausse des taux obligataires, et c'est ça qui compte, et c'est pour cette raison peut-être que malgré les taux élevés, on peut continuer d'acheter des actions. Est-ce que c'est ça que se disent les investisseurs?
Alors c'est probablement ça, parce qu'on a donc le dernier gros morceau de la tech qui doit publier, et quand on voit comment s'est déroulée cette saison des publications, en particulier pour le secteur de la tech, il y a quand même ça vient encore nourrir l'enthousiasme autour de ce qui se passe dans la tech. Pour rappel, la tech est vraiment au cœur des révisions en hausse des attentes de profit sur cette saison des résultats. Si on y ajoute les effets positifs du pétrole pour l'énergie aux États-Unis, quasiment 98% des révisions en hausse sont expliquées par ces simples deux secteurs. Donc là, on a le dernier gros morceau de la tech qui est en plus le baromètre, semi-conducteur, etc. Donc qui doit publier, donc évidemment ça nourrit toujours cet enthousiasme, mais il y a aussi l'histoire sur les taux qui a agité les marchés récemment, et en fait c'est un peu ça qui est aussi bien pris aujourd'hui, c'est qu'il y a une détente obligataire qui est assez nette et qui s'explique notamment par le fait que un des points un peu chauds sur les taux, c'est le Royaume-Uni. On a des chiffres de l'inflation au Royaume-Uni qui sont finalement mieux que ce qui était attendu, qui a été publié en fin de matinée, et on a aussi la confirmation des estimations de l'inflation aussi en zone euro, qui a été publié, qui montre qu'effectivement il y a un impact de l'énergie, certes, qui est relativement attendu par tout le monde, mais qui se limite globalement à l'énergie. Quand on regarde justement tout ce qui concerne plutôt les services qui sont pas véritablement liés à l'énergie, il n'y a pas spécialement de problématique d'inflation encore à ce stade. Donc ça, c'est plutôt de nature à aider la détente obligataire, et donc je pense que c'est en partie ce qui est derrière la séance du jour, parce que c'est justement ces tensions sur les taux qui, à notre sens, sont le sujet maintenant important. On va refermer avec Nvidia cette parenthèse pleine d'enthousiasme liée aux résultats de société.
Parenthèse enchantée.
On pourra en reparler sur ces chiffres, mais on va revenir à la problématique centrale qui est la dimension inflationniste, même stagflationniste, de ce conflit en Iran et la façon dont ça se propage à l'ensemble de l'économie.
Oui, aujourd'hui donc détente obligataire. Est-ce que malgré tout, structurellement, vous êtes de ce Rachid qui pensait que la détente du jour, c'est ça la parenthèse, et que structurellement, les taux vont continuer de progresser? Je vous pose la question, parce qu'il y a un an, par exemple, on avait eu un accès de fièvre sur le marché obligataire avec le Liberation Day. Et il a suffi d'une phrase, d'une prise de parole de Donald Trump pour que ce marché obligataire se détente d'un coup de baguette magique comme ça. Est-ce qu'on peut imaginer que la même chose se produise là avec la remontée des taux qu'on observe cette année?
Non, ça va être compliqué parce que l'année dernière, Monsieur Trump avait été à l'origine du krach obligataire, et donc il a pu l'éteindre. avec son fameux recul qu'on appelle maintenant TACO. Pour une fois, j'allais dire, les Américains sont pas franchement à l'origine de cette nervosité de nouveau sur les tensions obligataires. Les deux pays incriminés, on en parlait, c'est le Royaume-Uni et le Japon. Parce que si vous regardez la hausse des taux depuis le début de l'année, en gros, ces deux pays ont rajouté à peu près 60 centimes de hausse de taux sur le 10 ans, alors que les Américains ont rajouté à peu près à peine 30 centimes. Donc ça, c'est la première chose. Ça va être compliqué. Alors, il peut l'éteindre en signant un deal avec les Iraniens, mais on voit bien que c'est compliqué parce que les Iraniens ont compris qu'ils avaient besoin du deal et donc ont monté les surenchères. Ensuite, quand on parle du marché obligataire, je pense qu'il y a deux matchs aujourd'hui dans la courbe des taux. Il y a un match, on va dire, sur la partie courte et moyen terme, en gros du 2 ans aux 5 ans, c'est clairement les anticipations sur Hormuz, l'inflation court terme, est-ce que ça va percuter ou non sur l'inflation. Donc ça dépend bien entendu de comment va évoluer la situation au Moyen-Orient et clairement j'ai pas de boule de cristal.
Ça, c'est sur les tensions sur les dettes de 2 à 5 ans.
Voilà, 2 à 5 ans. Donc le match court terme, ça c'est vraiment le principal driver. Okay. Bien entendu, il y a les banques centrales. Alors nous, on a du mal à acheter ce que le marché intègre comme anticipation. 3 hausses de taux.
On va y venir, mais vous disiez, c'est intéressant, vous disiez, il y a deux salles, deux ambiances dans ce marché obligataire, même si tous les taux montent. Voilà. Donc sur les courts termes, on a compris, c'est lié à Hormuz. Sur les autres échéances, c'est lié à quoi?
Voilà, et donc sur le court terme, encore une fois, il suffit que ça se calme là-dessus, c'est bon. Sur le long, c'est-à-dire au-delà du 5 ans, et surtout les parties très longues, hein. Là, tout le monde parle du 30 ans qui a cassé... très facilement le plafond des 5%, on revient à des choses qu'on n'avait pas vues depuis très très longtemps, depuis 2007. Là, on rentre plutôt dans des problématiques justement de croissance économique à long terme, de déficit budgétaire, enfin, toutes ces questions plus structurelles sur lesquelles nous pensons que c'est pas terminé, quoi. Le sens de l'histoire, nous le symbolisons par un terme qui est devenu très à la mode, post-Covid, c'est le thème de la reflation. C'est-à-dire que nous sommes rentrés depuis le Covid avec le retour des États-nations à la manœuvre, avec ces plans budgétaires colossaux pour des bonnes choses, hein, peut-être, mais ça veut dire beaucoup de dépenses budgétaires, beaucoup de croissance, d'investissement, et ça, ça nourrit l'idée que la croissance économique mondiale, nominale, je dis bien nominale, c'est-à-dire inflation plus croissance, a rifté vers le haut, et ça doit se traduire par des taux plus longs. Il ne faut pas exagérer, 5% sur le 30 ans, c'est des choses qu'on a vues avant 2008. 30
ah oui, en 2007,
problème.
Qui n'était pas une super année, ça a enclenché 2008.
Le taux de l'OAT française était à la porte des 4%. Bon, c'est pas... Voilà. Ce qui compte pour l'obligataire, pour les marchés equity, c'est pas le niveau des taux longs. Alors, il y a un niveau de souffre-douleur, mais c'est la vitesse, encore une fois, de remonter. Mais c'est pas le niveau absolu qui est primordial.
Antoine ?
On fait de la politique fiction. Supposons que ce soir, Donald Trump dise « C'est bon, on arrête, on s'en va d'Iran, c'est terminé, on est copains. » On a un deal, etc. L'économie, elle va mettre 2 ou 3 ans à s'en remettre du bazar qui est actuellement sur les circuits d'approvisionnement, l'énergie, etc. Mmh. Ça va mettre un temps fou. Ça va être un temps fou. Et d'ici là, les taux ont largement de quoi déborder. Ça a finalement été un accélérateur de problèmes qui existaient déjà, en fait, la crise en Iran.
Absolument. Je reprends complètement vos propos, Antoine. C'est l'Ukraine et l'Iran. Pour la partie très longue, ce sont, comme le Covid, des accélérateurs d'une tendance qui était inscrite, qui est en gros le retour de l'inflation, le retour de la croissance nominale. Et ça, le meilleur indicateur à long terme d'un taux long, Guillaume, et ça marche très très bien, c'est le PIB nominal. Voilà. Et donc là, il y a encore un petit gap avant d'aller, si jamais la tendance
ici a-t-il la clé ? Qui arrêtera la flambée des taux obligataires ? Aujourd'hui, on a une petite pause, mais structurellement, sur les taux longs, qui a la clé ? Benoît, est-ce que vous l'avez ?
Alors, en tout cas, c'est pas moi qui ai la clé. Je suis désolé de vous décevoir, mais en tout cas, Rachid a vraiment raison. Il y a quelque chose de très intéressant qui se passe sur la partie longue des courbes de taux. Évidemment, cet accès d'inquiétude qu'il y a eu avec cette hausse des taux longs, c'est la rapidité de cette tension sur les taux qui pose question. Il y a deux points chauds bien identifiés, le Royaume-Uni et le Japon, mais encore une fois, les États-Unis, c'est quand même le cœur des marchés financiers. Et il y a quand même eu quelque chose d'un peu nouveau récemment. C'est que, bien évidemment, c'est toujours l'impasse du côté d'Hormuz, mais ça affecte pas tant ce qui se passe à très long terme sur les courbes de taux. Il y a eu les chiffres de l'inflation aux États-Unis, et les chiffres de l'inflation, ils montrent qu'évidemment, comme partout, il y a un impact énergétique, mais il y a pas que ça. Il y a aussi la confirmation qu'il y a bien une inflation persistante qui date d'avant ce conflit, qui est reflété à travers tout un tas de services qui sont absolument pas directement liés à ce qui se passe en matière énergétique. Et le deuxième élément, et c'est très important pour nous, pour le scénario de marché,
ce que vous venez de dire est déjà très embêtant quand même pour l'inflation.
C'est pour ça que nous, on est assez convaincus que l'économie américaine ne va pas échapper comme ça aussi facilement à ce qui se passe, et que les problématiques inflationnistes sont peut-être même plus aiguës en réalité aux États-Unis parce qu'on n'a pas regagné fondamentalement la maîtrise de l'inflation, ce qui est le cas du côté de la zone euro. Ce qui s'est passé, qui explique à notre sens la nervosité sur les taux, c'est que on a eu un décalage qui n'est pas anodin sur les anticipations d'inflation à long terme. Les swaps d'inflation 5 ans dans 5 ans aux États-Unis sont significativement remontés sur une semaine. Ils ont pris 20 points de base. On est sur des swaps d'inflation 5 ans dans 5 ans à 2,6% aujourd'hui. C'est élevé. La dernière fois qu'on avait eu un point haut majeur, c'était l'après-Covid, on était à 2,8. Ça veut dire quoi? C'est très important, et c'est probablement ce qui explique aussi que les taux réels à long terme se tendent aux États-Unis, notamment sur le 30 ans réel, ça se tend plus vite que sur le 10 ans.
Les taux lourds se tendent, c'est comme si votre moelle épinière n'arrivait plus à circuler. Attention, c'est hyper important, c'est structurel pour les marchés.
C'est ça, pour nous, c'est quand même un petit drapeau qu'il faut surveiller, qui vient de se lever, parce que qu'est-ce qui fonde la réaction des banques centrales? Quand il y a un choc énergétique, elles ne sont pas vouées à réagir immédiatement. Elles doivent réagir si ça se transmet plus généralement dans l'économie et ou s'il y a un mouvement sur les anticipations d'inflation à long terme. C'est précisément ce qui est en train de se produire. Et ça, pour nous, on est très attentif à cela, et c'est pour ça qu'on se méfie quand même de ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'on a multiplié les chocs inflationnistes au cours de la dernière décennie. On n'a pas regagné fondamentalement la maîtrise de l'inflation, donc on peut reprocher à la Banque Centrale Américaine, on peut reprocher à la politique fiscale très expansionniste, qui est probablement ça la vraie raison. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas regagné la maîtrise de l'inflation, et il y a probablement plus de volatilité dans ces anticipations d'inflation à long terme aux États-Unis, et ça pourrait justement faire réagir à la hausse justement les taux sur la partie longue de la courbe. Et ça, c'est quelque chose qu'on surveille, parce que si c'est le cas, ça peut pousser les banques centrales à se montrer effectivement un peu plus restrictives que prévu, et donc avoir un impact un peu plus négatif sur le sentiment de marché, notamment par ricochet sur les marchés actions.
Oui, c'est vraiment, on est sur la moelle épinière là, on attaque la moelle épinière, et attention à ce qu'elle se dérègle pas trop rapidement. On a quand même des bonnes nouvelles quand même, par exemple, la dérégulation bancaire aux États-Unis. Cette dérégulation bancaire, alors on peut se dire que ça ouvre le champ à tous les excès financiers, etc., la boîte de Pandore, oui, mais elle apporte aussi des liquidités supplémentaires. Apparemment, là, de ce qu'on lit, les chiffres qu'on voit passer, 4000 milliards de dollars supplémentaires, là, rien que cette année, grâce à la dérégulation bancaire qui arrive sur le marché, qui sont prêts à s'investir sur le marché, 4000 milliards. Ça va peut-être aider à justement modérer la hausse des taux, parce qu'une partie de cet argent ira s'investir sur la dette américaine et sur nos dettes aussi. Est-ce que cette dérégulation bancaire, finalement, peut venir sauver le marché obligataire?
Je ne sais pas si ça peut venir sauver le marché obligataire. Je ne sais pas d'ailleurs si le marché obligataire a besoin d'être sauvé. Encore une fois, on est sur des niveaux de taux et on a oui. connu plus élevés. Mais encore une fois, c'est la vitesse de tension qu'il y a sur les taux qui peut faire dérailler les marchés. Et encore une fois, si on regarde tous les phénomènes historiques d'euphorie sur les marchés, d'optimisme un peu excessif, voire de bulle, ils ne se sont pas toujours corrigés, soit par un événement exogène ou alors parce qu'on a des déceptions en premier lieu sur les profits. Ils se sont généralement calmer parce que tout simplement les taux sont significativement remontés. Et c'est ça effectivement qu'il faut surveiller, c'est cette vitesse de progression des taux d'intérêt, de tension qui peut avoir des effets, encore une fois, qui sont relativement importants parce qu'on a une politique fiscale aux États-Unis qui est très expansionniste. On est toujours sur un niveau de déficit qui est autour de quasiment 6%, ce qui est généralement ce qu'on voit dans une situation de récession, alors qu'on est une économie qui continue d'être extrêmement solide. Donc c'est effectivement quelque chose qu'il faut surveiller.
Oui, bah alors on peut se dire aussi que le marché obligataire anticipe la croissance à venir aux États-Unis, boosté par les gains de productivité, par l'IA. Est-ce que c'est ça aussi? Et là, on essaie de voir les choses en positif, que traduit la hausse des taux obligataires. Il y a de la croissance nominale embarquée dans ces taux obligataires à long terme. Donc, est-ce que le marché parie aussi sur une accélération de la croissance à long terme?
Moi, je pense qu'il y a de ça. Il y a plus qu'un peu que ça. Je pense que, on est tous contents de tous ces plans d'investissement colossaux. On est tous contents de tous ces plans d'investissement colossaux des États et des sociétés, notamment dans la tech. Mais ça veut dire une demande à l'épargne mondiale. Donc vous allez avoir une compétition pour l'épargne mondiale à un moment donné où, franchement, je regardais encore avant de venir les chiffres, les perspectives budgétaires américaines. Faut voir que, par exemple, 10 points de base de plus, Guillaume, si ça se maintient sur les 10 prochaines années, c'est 400 milliards de plus sur le déficit. La hausse des taux que nous avons eue sur le 5 ans américain depuis le début de l'année, si elle se maintient sur les 10 prochaines années, c'est un peu plus de 1500 milliards sur le déficit budgétaire. C'est pas prévu dans les perspectives du CBO américain. Les dépenses de défense ont été sous-estimées. Donc, voilà. Donc, il va y avoir une compétition mondiale pour l'épargne, et ça, ça fait monter le ce qu'on appelle le taux d'équilibre des taux d'intérêt à long terme, mais c'est, encore une fois, c'est pas que c'est pas grave. C'est pas un handicap pour les marchés actions. Ce qui est un handicap, encore une fois, c'est que ça aille trop vite et ça peut rebattre un peu la rotation, notamment des valeurs de croissance. Voilà, ça peut devenir gérant. Mais encore une fois, il faut pas voir dans cette tension sur l'obligataire. Je répète, ce qui est important, c'est ce qui se passe sur le 2-5 ans, où là, c'est plus problématique parce que c'est les banques centrales, c'est le court terme. Sur le long terme, on peut avoir une lecture qui est un peu moins pessimiste, et c'est celle que vous aviez il y a 30 secondes.
Mais alors, on va regarder aussi, dans un instant, on regardera d'ailleurs pourquoi les marchés sont autant en hausse aujourd'hui, parce qu'on a une accélération du CAC, là, plus 2,2% d'un seul coup. On va regarder, on ouvre un œil et des radars sur tous les pans du marché, bien sûr, pour comprendre ce qui se passe là, en cette fin de séance, plus 2,2% d'un coup, le CAC 40. Mais juste avant, vous disiez, il va y avoir une course à l'épargne, une concurrence sur l'épargne pour essayer de venir financer les dettes publiques. En fait, les pays qui dépendent le plus des créanciers extérieurs internationaux sont les plus en danger. Je voyais les États-Unis, plus de 30% de leur dette est détenue par des investisseurs étrangers, plus de 30%. Mais alors nous, c'est bien pire. Nous, c'est 54% la France. Oui. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des États-Unis là, mais en fait, la France là-dedans, c'est encore pire.
Mais il y a trois pays qui inquiètent, effectivement, États-Unis, France, Royaume-Uni. Mais oui. En réalité, oui, la France inquiète si on regarde, par exemple, la charge en termes de taux d'intérêt. On était quatrième sur le podium européen, on est devenu premier. Donc on est recordman aujourd'hui en termes de charge d'intérêt par rapport au PIB. Mais la France, faut pas non plus exagérer les choses, tout simplement parce que ce qui compte, c'est pas que le pourcentage d'étrangers qui détiennent la dette, c'est en gros la situation de balance courante. C'est un peu le compte bancaire, le solde bancaire des États. Mmh. Et là, il y a deux pays qui pour le coup sont très inquiétants, c'est le Royaume-Uni et les États-Unis. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Et puis, pour les États-Unis, il faut rajouter autre chose. Quelque chose de fondamentalement stratégique, et ça, c'est la faute de Trump, c'est que beaucoup de pays qui, historiquement, recyclaient leur excédent sur le marché américain, vont avoir du mal ou peut-être un peu plus de difficultés à le recycler. On pense à cause de quoi ? À cause de ce qui se passe sur la géopolitique, où beaucoup de pays s'aperçoivent que les États-Unis sont pas forcément un allié de premier ordre. Mm-hmm. La saisie des avoirs russes. On a ouvert la boîte de Pandore.
Ça rend beaucoup d'émergents très méfiants. Pas que les émergents, d'ailleurs. La France a rapatrié une partie de son stock d'or qui était à New York.
Vous avez cité le mot émergent. Où est-ce qu'il y a de la croissance d'épargne dans le monde actuellement et dans les prochaines années ? C'est dans les pays émergents. Et ces pays-là, peut-être qu'ils vont acheter un peu moins d'obligations américaines. Ça aussi, ça met un peu de pression sur la courbe très longue des États-Unis.
On est à 16 minutes de la clôture. Le CAC 40, là, dans la dernière ligne droite, donc accélère. On gagne 2%. Voilà, comme ça, 8136 points. Je ne sais pas, Antoine, si on a des infos particulières. Rachid ?
Alors, en venant, j'ai vu une nouvelle Bloomberg, apparemment, je ne sais pas, parce que vous savez qu'il y avait des inquiétudes sur des grèves chez Samsung qui pouvaient complètement bloquer. Et en fait, apparemment, ils auraient trouvé un deal salarial. Peut-être que...
Voilà, on peut participer peut-être une goutte d'eau. Il en faut peu, quand même, pour soutenir le marché, si c'est ça. Non, mais c'est important pour les Coréens, mais pour nous, c'est très important.
Parce que
pour la tech. C'est important pour la tech.
Non, mais c'est important parce que si on regarde le rebond depuis les points bas post-déclenchement de cette crise, la lecture du marché, elle est très claire. C'est la thématique tech qui fait exploser les marchés, parce que nous, au CAC 40, actions zone euro, nous sommes toujours en négatif, et alors que les autres, ils sont bien au-dessus, et c'est la tech, donc
d'accord.
C'est important.
Donc si Samsung évite une grève, parce que c'est un très gros groupe, bien sûr, Samsung notamment, et alors pour le PIB coréen, évidemment, c'est important, le risque, la menace de grève, ça plomberait l'économie sud-coréenne, enfin de là à permettre une accélération haussière des marchés en Europe, je sais pas, il y a vraiment un lien potentiel
En Europe et partout, la moindre nouvelle qui concerne la tech dans le monde, c'est ça, des répercussions sur les marchés mondiaux. C'est très clairement le secteur. Si on regarde la progression des marchés sur ces dernières semaines, en fait, c'est uniquement lié à la tech. Je l'expliquais à travers les révisions de bénéfices. On est aujourd'hui, pour cette année 2026, la croissance des profits qui est attendue en 2026, on est maintenant à quasiment 25% de croissance. En début d'année, on attendait 15%, ce qui apparaissait déjà comme relativement challenging, alors que l'économie américaine est censée ralentir. On est à 25%. Ça paraît tout à fait normal pour à peu près tout le monde. Mais en fait, en dehors de la précaution, post-Covid où l'économie américaine était surstimulé par la politique expansionniste, on a rarement eu des croissances de profits attendues aussi importantes. C'est pour alors ça que l'économie est censée ralentir.
Et c'est pour ça que j'ai tendance à me dire, les marchés peuvent continuer de monter malgré des taux très très élevés. On a une croissance bénéficiaire des entreprises jamais vue.
Alors attention,
rarement vue en tout cas.
Alors justement, attention, il y a quand même des épisodes historiques qui vous montrent que c'est pas toujours le cas. Et effectivement, il y a souvent un parallèle qui est fait entre les valeurs de technologie américaine, les valeurs de croissance et ce qui s'est passé au tout début des années 70, avant le premier choc pétrolier. C'est le dégonflement des Nifty 50. On était dans une situation un peu comparable, alors pas aussi tendue, mais un peu comparable. On avait toute une série d'entreprises américaines absolument fantastiques, dont beaucoup existent encore aujourd'hui, hein, McDonald's, Coca-Cola, mais il y a aussi Polaroid ou Avon Product, etc., qui étaient des sociétés qui semblaient comme ça depuis des années défier tous les cycles économiques avec des profits absolument fantastiques. Et il faut bien avoir en tête que il n'y a pas eu spécialement d'effet d'impact d'événements exogènes. Hein, le choc pétrolier arrive qu'en 73. Là, je parle de la fin des années 60 et avant ces 73, ou simplement le fait que les taux remontent à cause de pressions inflationnistes persistantes. Alors à l'époque, elles étaient beaucoup plus graves parce qu'il y avait de l'indexation des salaires, hein, bien évidemment, des politiques fiscales très expansionnistes. Ces sociétés, malgré des profits extrêmement solides, on parle de croissance de bénéfices de l'ordre de 30 à 40%.
Oui, c'est comparable à ce qu'on voit aujourd'hui, clairement. Oui, oui.
Ont vu leur prime de valorisation se dégonfler extrêmement rapidement, simplement sous l'effet de la hausse des taux. Et donc, attention, encore une fois, même si on génère beaucoup de profits, c'est souvent un argument qui est mis en avant pour expliquer qu'il n'y a pas de bulle. C'est tout à fait juste. On n'est pas dans une situation qui représente, qui se compare à 2000, où effectivement, on avait des espérances de profits assez surprenante. Là, c'est pas le cas. On génère énormément de profits, mais attention, des profits ne rendent pas forcément invincibles. Si on a effectivement une hausse des taux qui commence à être jugée relativement excessive, elle va révéler des valorisations qui sont un peu excessives un mouvement de dégonflement.
Mais le sont-elles excessives, les valorisations semblent... Tout le monde nous dit, oui, les marchés sont sur des records, mais en fait, compte tenu de l'ampleur des hausses de bénéfices des entreprises, en fait, on est sur des valos qui restent très raisonnables dans la moyenne historique.
Ce qui inquiète, c'est
pas... Vous n'allez pas être d'accord l'un et l'autre, là.
Non. Après, c'est factuel. Si vous dites les prévisions de croissance de bénéfices à 12 ou 24 mois, elles sont crédibles, et ce qu'on croit globalement, sauf accident stagflationniste, la comparaison, on était sur des niveaux de 40 fois les PE de 24 mois dans les années 70, on était 30 fois ou 40 fois pas loin dans les années 2000. Là on est à 20, 25.
Nvidia, Wall Street, ça va.
Voilà, Nvidia se paye comme le Real, pour faire simple. Donc vous voyez, c'est pas non plus, voilà. Donc le problème, pour nous, il est pas là. Le problème, il y a un problème de concentration. Il y a quelque chose, il y a un chiffre qui vraiment inquiète et qui sonne. C'est que on a aujourd'hui les 10 grosses valeurs qui représentent 40%. Alors le 40% de la market cap, il est magique. On a tapé dessus historiquement dans tous les pics de bulles dans les années 70, la bulle japonaise, la bulle TMT. On est allé toper à peu près 40. La seule bulle sur laquelle on a été plus loin, c'est la bulle des chemins de fer au 19e siècle. Bon, alors, je ne sais pas s'il faut le prendre en compte. Donc ça fait peur à certains investisseurs, cette concentration.
Donc c'est plus que les... Oui, mais à l'époque, quand il y avait ces niveaux de concentration, est-ce que les valos, elles, étaient excessives? Parce qu'actuellement, elles ne le sont pas.
Elles étaient excessives. Mais Guillaume, l'autre point important, c'est... est-ce qu'on peut extrapoler ces niveaux de croissance? On a un problème de goulot d'étranglement. L'énergie, il ne vous a pas échappé qu'il y a à peu près 300 lois aux États-Unis qui ont été mises sur la table depuis le début de l'année dans les régions pour un moratoire sur les data centers. Oui. Alors, ce qui nourrit l'explosion des valeurs semi-conducteurs, c'est les fameuses data centers. On a un problème d'eau. Donc il y a beaucoup d'États américains qui appelaient de leur vœu ces data centers qui commencent à les bloquer. Donc il y a ce risque, c'est vraiment ce risque-là qui peut venir un peu, non pas renverser la table, mais bloquer un peu tendance, voilà. Plus que les taux, à mon avis.
Et sur les valorisations, je vous voyais pas d'accord là, Benoît. Vous trouvez que les marchés sont trop chers?
Alors, encore une fois, les valorisations, quand on les compare comme ça, il faut encore une fois prendre le contexte de taux d'intérêt. Ce qui importe pour nous, c'est la valorisation en relatif au taux d'intérêt. Et il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, il y a une situation qui est pas dramatique, je rejoins Rachid là-dessus, mais qui pose quand même question en termes d'allocation active, c'est-à-dire qu'on a une prime de risque qui devient négative aux États-Unis. C'est-à-dire que le niveau de valorisation en relatif vous indique qu'effectivement, les marchés actions, c'est pas forcément là où on est censé, dans les années qui viennent, faire le plus de, où ça a le plus d'intérêt. C'était la même chose justement dans les années 70, avec des niveaux de valorisation qui étaient peut-être plus élevés, mais quand on regarde la prime de risque, on a eu à peu près le même type de mouvement. Ça vous montre qu'il y a un appétit pour le risque finalement assez féroce dans les marchés, dans les deux cas. Ensuite, l'autre élément qui me semble extrêmement important, c'est de regarder ça sur une perspective plus longue. Et encore une fois, Rachid a raison sur cet élément-là. Est-ce qu'à 12 mois, effectivement, on peut avoir confiance dans les anticipations de profit, mais à plus long terme, il y a des challenges qui vont devoir être résolus, hein, notamment pour la tech. Et justement, nous, ce qui nous préoccupe, c'est que progressivement, ce secteur qui est très concentré, encore une fois, on parle aujourd'hui, on parle de quoi? Cette valeur, une dizaine de valeurs, et on parle de concentration extrême. Hein. Oui. Pour vous donner une idée de cette concentration, à l'époque des Nifty 50, on parlait de 50 boîtes. Hein, donc, on n'en a que 10, donc la concentration est particulièrement importante.
Mais
aujourd'hui.
Est-ce que c'est un problème? Toute la lumière du monde est concentrée, c'est le soleil qui l'envoie. Est-ce que c'est un problème? Non, mais oui, on peut vivre avec la concentration, ça peut même faire vivre la concentration.
Alors en tout cas, c'est un facteur qui est pour nous à surveiller, qui est un vrai facteur de risque, parce qu'en fait, le moindre freinage sur ce secteur, une simple déception sur les profits, peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes, et une réaction en chaîne qui va impacter justement l'économie de façon plus générale. Oui.
Antoine ?
Donald Trump vient d'annoncer que Iran et États-Unis seraient sur la phase finale de leurs négociations.
Ah bah voilà.
C'est pour réaliser un deal.
C'est la combien de fois?
Oui, ça doit être la 450e fois, mais bon, disons que le marché, pour l'instant, y croit, étant donné que le CAC 40 gagne 2% et qu'on a quand même une nette accalmie, notamment autour du pétrole. 104 $ hein, pour le baril de Brent de Mer du Nord, la correction est assez violente, et 97 pour le brut léger américain.
Oui. Ben voilà, 2% de hausse à Paris, le Nasdaq gagne 1,2%, le S&P plus 0,8%, mais vous emballez pas parce qu'on entre dans la pire période de l'année, les amis. Oui. De mai à octobre, les années d'élections de mi-terme, donc on y est là, élections de mi-terme dans 6 mois, de mai à octobre, depuis 1962, les marchés américains reculent à chaque fois pendant les 6 mois. 15 fois sur 16, il y a eu 16 élections de mi-terme aux États-Unis depuis 1962, 15 fois sur 16, le marché de mai à octobre a reculé, et parfois de 20, voire 25%, pas qu'à moitié. On entre dans cette phase, mai-octobre, précédant une élection de mi-terme. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, peut-être qu'il s'en fiche, Donald Trump, des midterms, qui se dit qu'elles sont perdues d'avance et que vaille, si ce conflit en Iran dure, eh ben, c'est pas si grave. Même si là, pour la 300e fois, il dit qu'on est proche d'un accord.
Alors, je connaissais pas cette prophétie boursière, là, mais oui. Ce que j'avais en tête, moi, c'était plutôt...
C'est une stat, c'est pas une prophétie. Non. 15 fois sur 16, le marché recule.
Qu'est-ce que je veux dire? C'est que j'avais plutôt en tête l'idée que, historiquement, à quelques mois des mi-termes, à partir de, en gros, vous avez raison, du mois de mai jusqu'au mois de septembre, les marchés font plus rien. Beaucoup de volatilité, ça monte, ça baisse. Voilà. Et pourquoi? Parce que le marché attend un peu d'être sûr des résultats. Et ce qu'adore le marché, c'est qu'en fait, dès la rentrée, quand il va s'apercevoir qu'il y a un split, ce que dort le marché, c'est quand le président en place n'a pas de majorité dans les deux chambres. Il adore les situations où il y a une séparation des pouvoirs, parce qu'en général, ça évite les bêtises macroéconomiques. Et donc, si on part vers une situation où on s'aperçoit à partir de septembre que, en gros, les républicains n'auront plus la majorité dans les deux chambres, c'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est qu'à mon avis, on bascule vers des anticipations où les démocrates l'emporteraient. Je ne sais même pas si c'est techniquement possible.
Possible, bien sûr.
Là, oui. c'est plutôt, pour les marchés, ça serait, à mon avis, plutôt une vision un peu négative, parce que ça introduirait l'idée qu'ils vont en refaire encore de la relance fiscale et que ce n'est pas le moment, donc quand on a un déficit déjà de 6 ou 7%.
Oui. Enfin, le roi de la relance fiscale, c'est quand même Donald Trump. Enfin, il distribue des chèques en ce moment.
Oui, je sais pas.
Benoît.
C'est un gros changement aux États-Unis. Enfin, on est en train d'enchaîner plusieurs mandats, démocrates ou républicains, où la relance fiscale est le nerf de la guerre. Encore une fois, on entretient un déficit de près de 6% du PIB, alors qu'on n'est pas du tout, c'est ce qu'on voit d'habitude dans une situation de récession. Donc, j'ai envie de dire, démocrates ou républicains, Rachid a parfaitement raison. C'est surtout le discours qu'il va y avoir sur cette idée qu'il faut perpétuellement nourrir la demande. Attention. Encore une fois, ce genre de problématique. Alors, sur la répétition des comportements boursiers, moi, ce qui me frappe surtout, c'est qu'on est en train de s'installer durablement dans un monde d'incertitudes particulièrement élevées, et notamment d'incertitudes politiques, géopolitiques particulièrement élevées. Et les États-Unis n'y échappent pas. Il y a certes toujours les États-Unis qui sont loués pour la stabilité de leurs institutions, etc. Et on voit que, effectivement, comme partout ailleurs dans le monde, il y a un peu plus d'incertitudes politiques, parce que, il y a cette dimension fiscale qui est extrêmement importante et qui est devenue déterminante dans l'économie. Dans l'économie américaine.
Oui, le retour des États, de la politique et de la géopolitique en l'occurrence, le retour de la géographie, les marchés n'aiment pas trop, effectivement. Même si aujourd'hui on est sur une belle hausse pour le CAC 40, Nvidia publiera ses résultats ce soir, on verra si Nvidia redonne le moral au marché, si Nvidia est plus fort que le marché obligataire, pour redonner en tout cas de l'optimisme aux investisseurs. Regardez là, Alphabet parvient à générer $1 million de bénéfices
toutes les 4 minutes. C'est le site bestbrokers.com qui a compilé en fait les entreprises les plus rapides à générer des millions de bénéfices. Et bien sûr, ce sont les grandes tech américaines qui dominent ce classement. Au premier rang, Alphabet, moins de 4 minutes pour générer 1 million de dollars de bénéfices. Nvidia arrive derrière. Il faut à Nvidia 4 minutes 23 secondes pour générer 1 million de bénéfices. On parle bien de bénéfices, hein, pas de chiffre d'affaires. Alors Apple et Microsoft, petits joueurs, il leur faut 5 minutes, 5 longues minutes pour générer 1 million de dollars de bénéfices. C'est fou hein, quand même. Et on a des marchés qui du coup continuent de monter. Et un Nasdaq qui, même s'il a reculé ces 3 derniers jours, reste proche des records. On continue de parler de tout cela bien sûr, mais d'abord, avant la clôture dans un instant, on entre, messieurs, dans la Data Room. Votre rendez-vous quotidien avec les meilleurs data du monde. Ils vont vous les livrer gratuitement. Rachid et Benoît, êtes-vous prêts?
Oui.
Vous avez chacun une minute pour livrer une data forte. Rachid, votre chiffre, votre data, 11.
Oui, alors 11, c'est le nombre de jours qu'il a suffi, fallu, au S&P américain pour retrouver son niveau initial post-déclenchement de cette crise iranienne. C'est le délai de recouvrement hein, probablement le plus rapide de l'histoire boursière. C'est mieux que l'année dernière après le Liberation Day. C'est mieux que quand on avait eu le Covid. Et pour nous... Alors on peut trouver des raisons de dire c'est normal, ça devait rebondir vite. Bah non, on trouve que ça va trop vite. On va pas revenir sur tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, les taux d'intérêt, les incertitudes. Enfin, et ça, on le traduit chez nous, chez l'ouvre-banque privée, par globalement des positions où on a encore un peu de cash parce qu'on se dit quand même si on est constructif à moyen terme, sous réserve que ça se résolve du côté de Hormuz, qu'il faut faire attention. Ça va trop vite. Voilà, ça va trop vite.
Rachid, vous vous êtes montré généreux en data, là.
Ah ouais, oui.
Superbe data. À vous, Benoît. Votre chiffre, moins
0,6%. Moins 0,6%, c'est à l'issue du T1 2026, hein, la contribution de l'investissement hors tech à la croissance américaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous retirez le secteur de la tech hein, et les investissements dans la tech, en réalité, l'investissement se contracte aux États-Unis. Alors qu'on, justement, on l'a évoqué, on a une économie qui est particulièrement stimulée par un déficit public et une politique fiscale particulièrement expansionniste. Donc ça veut dire quoi concrètement pour les marchés? Ben c'est que justement le moindre accident sur la destinée d'un seul secteur, et ça a été un peu le cœur de notre échange aujourd'hui, ben pourrait bien se répercuter non seulement sur les marchés financiers mondiaux, mais bien concrètement sur l'économie américaine. Donc en gros, si la tech faiblit, ben c'est l'ensemble de l'économie américaine qui risque de trinquer.
Oui, toute cette croissance américaine, elle est tirée et portée par la tech. Ouais, deux belles datas. Et pendant ce temps, l'Europe, elle avance quand même, l'Europe, ou pas? Elle est en retard sur les marchés. C'est vrai, on a toujours la tendance à la voir, pas en noir, mais en gris, l'Europe. Est-ce qu'au contraire, quand même, discrètement, comme ça, sous les radars, elle est en train de pousser ses pions, malgré tout, d'un point de vue économique, structurel aussi, voilà, forme de quête de puissance qui est en train de commencer à se réaliser, Benoît?
Mais nous en sommes assez convaincus, justement, la réponse à ce que je viens d'évoquer à travers cette data, c'est de faire un effort de diversification, et justement, l'Europe est de nature à en bénéficier, même si, encore une fois, c'est pas forcément hyper enthousiasmant à long terme, c'est pas aussi brillant que la tech américaine, mais
c'est pas Las Vegas, hein, mais...
Bah non, mais on a regagné la maîtrise de l'inflation, alors que ça reste toujours un sujet aux États-Unis, qui est probablement l'un des sujets derrière les tensions sur les taux, qui pourrait être bien le facteur qui pourrait faire dérailler les marchés. Ouais. C'est un peu moins vrai du côté de l'Europe. Donc en relatif, ça nous semble relativement pertinent toujours.
Ouais, voilà, intéressant. Et l'économie américaine, c'est un peu Las Vegas en ce moment, et l'économie européenne, c'est le Louvre, mais qui se
fait. Le Louvre. On adore le Louvre. On l'adore tellement qu'on l'a mis dans notre nom, mais non, mais
c'est vrai.
Et parce que c'est le patrimoine, c'est ça qui est important.
J'ai pas du tout fait exprès.
Mais non, mais c'est pour ça que nos clients hier à Toulouse, je vous l'ai dit, hein, une belle soirée patrimoniale. Ils vous adorent, Guillaume. Ils adorent BFM Business pour la pédagogie.
Et bah oui.
Je les salue parce qu'il y avait une dentiste notamment. Qui vous adore, Isabelle. Voilà, elle m'a demandé de vous saluer. Voilà.
Ah ben, écoutez, un grand, grand bonjour à Isabelle. Alors, voilà, je salue également. C'est donc elle qui nous écoute. Je me demande toujours qui. C'est donc elle.
Voilà.
Non, on est ravis. Elle vous écoute surtout parce qu'elle vous suit hein, quand vous passez. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Rachid Medjaoui, Louvre, banque privée, donc, et Benoît Pelloual pour Natixis Wealth Management. Bon retour. Dans un instant, la clôture, on va la vivre ensemble. A tout de suite sur BFM Business.
BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris.
Avec Antoine. Rebonsoir Antoine.
Rebonsoir Guillaume.
Comment termine-t-on aujourd'hui?
On termine avec cette vraie prise de conscience que le marché, on a l'impression qu'il faut lui raconter des jolies histoires. Et puis il se met à bien réagir. Donc Donald Trump qui dit que les États-Unis et l'Iran sont en phase finale d'un deal sur une paix prochaine. Donc le CAC 40 a brusquement accéléré, ça s'est passé en deux phases en fin de séance et on termine sur une progression d'1,7%, 8117 points, mais on était en hausse d'un peu plus de 2% tout à l'heure. Donc voilà, il y avait des intentions d'achat très très fort du côté de la tech, hein. L'Euronext Tech Leaders plus 2,6%, l'Eurostock 50 plus 2,13%, plus 2,12% à Madrid. Enfin, vraiment des performances assez éclatantes en cette fin de séance. À noter que ça s'est quand même considérablement calmé du côté du pétrole. On est à 106$ pour le Brent de mer du Nord, 99 pour le brut léger américain, ainsi que sur les taux aussi, 3,71 pour la dette française 10 ans, 4,58 pour la dette américaine 10 ans. Donc on repasse sous 4,6%. Allez savoir si c'est aussi la montée du 30 ans au-delà des 5% qui a un petit peu pressé Donald Trump à dire que oui, on va pas tarder à signer quelque chose.
Il le dit tout le temps. Voilà, mais ce soir, les marchés l'achètent.
Ça fait la 300e fois qu'il nous fait le coup, mais là, les marchés étaient prêts à l'entendre. ST Micro, plus forte hausse du CAC, plus 5,98, 55,27€. Soitec, plus forte hausse du SBF 120, plus 10,4%, comme ça, entre la poire et le fromage. Non mais c'est hallucinant, Soitec.
C'est fou.
C'est effrayant. Et effectivement, on s'achète un petit peu à crédit quand même les performances d'NVIDIA, hein, qui seront publiées après la clôture de Wall Street. On sera tous dans les starting blocks ce soir. Et la plus forte baisse du CAC 40, c'est une techno aussi, mais c'est plutôt du côté des logiciels et des SaaS que ça se joue. En Capgemini, recule de 3,2% à 101,80€.
Romain nous rejoint. Romain Daubry pour Bourse Direct. Romain, donc, au finish, dans le dernier quart d'heure, tout s'est accéléré. Le CAC termine à plus 5,7% ce soir. 8117 points. Est-ce que vous voyez des explications à cette accélération? Oui, Donald Trump qui dit que on est sur le point de signer là avec l'Iran, enfin il le dit souvent, mais cette fois les marchés semblent vouloir acheter. Comment vous regardez ça?
Oui, effectivement, ça, si on regarde le comportement des opérateurs, manifestement les mauvaises nouvelles, on les digère plutôt bien en ce moment, même très bien, de petites consolidations éventuellement, et les bonnes nouvelles, on les paye. Sur nos indices européens, il n'y a pas de momentum, on le lit depuis longtemps, hein, ça fait depuis le début du mois d'avril que sur l'indice parisien, on est bloqué dans un grand trading range. En bas, c'est 7884, en haut, 8357. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'est fait un petit peu peur il y a quelques jours, mais qu'on a réagi sur un niveau de support important une fois de plus et qu'on repasse la médiane de cette zone de congestion. C'est 8075 avec du volume qui est un petit peu en hausse. Donc, a priori, on devrait rallier la borne haute du range pour l'instant. Évidemment, la publication d'NVIDIA jouera sur l'humeur des opérateurs demain. On peut rappeler que, on attend un consensus qui est extrêmement optimiste avant la publication. C'est pas nécessairement de nature à faire baisser le titre, mais à limiter le momentum aussi, en tout cas.
Vous nous accompagnez, Romain, jusqu'à la clôture à 18h tout à l'heure. On parlait, la fin de l'émission, la clôture de l'émission, on parlait aussi du pétrole avec Benjamin Louvet. C'est l'un des meilleurs spécialistes, des meilleurs pédagogues sur le pétrole. C'était vraiment passionnant. Il a débunké plein de mythes sur l'évolution qu'on peut attendre des cours du pétrole une fois que le conflit sera terminé. Parce qu'en fait, il y a plein de mythes sur les scénarios qu'on peut attendre d'une fin du conflit. Il a tout débunké, c'était dans la Bourse Cash, il a parlé cash effectivement. Cette séquence, la Bourse Cash, est disponible en replay sur l'application BFM Business.
BFM Bourse, on refait la séance.
Sur le pétrole, il a été clair, alors vraiment, c'est le cas de le dire là pour le coup, clair comme de l'eau de roche. Hein. Benjamin, c'est toujours passionnant, franchement un grand talent de l'émission. Comme Thibaut François qui vient de nous rejoindre, Fastia Capital, rebonsoir Thibaut.
Rebonsoir
Guillaume. En fil rouge, et Étienne Monceau qui nous accompagne aussi ce soir. Bonsoir Étienne. Pour Zone Bourse. Ravi de vous retrouver l'un et l'autre. Promis, on va parler d'NVIDIA dans un instant, qui est en hausse avant sa publication tout à l'heure. Avant d'en parler, notre star du jour à nous, c'est Euronext qui a publié plus 5% ce soir. Le trading, ça a porté le premier trimestre. Est-ce que les perspectives méritent ce plus 5 aujourd'hui, Thibaut?
Ouais, bonne croissance bonne croissance depuis le début de l'année. L'acquisition grecque se passe bien. Les perspectives sont plutôt bonnes. Les taux sont plutôt à la hausse. Et on le répète, mais c'est vrai que quand les taux sont plutôt bien orientés et sont plutôt haussiers, c'est plutôt très favorable pour l'ensemble du secteur financier. Bon, il manque, allez, si on veut être un petit peu tatillon, il manque un petit peu d'introduction en bourse sur Euronext. C'est toujours compliqué la partie primaire, mais c'est vrai que le reste des activités est plutôt bien orienté et il y a toujours cet aspect un peu spéculatif autour d'Euronext, qu'il soit consolidateur ou aussi qu'il soit éventuellement proie avec, on pense à Deutsche Börse, bien entendu.
Ah bon, Euronext, Deutsche Börse, vous pensez encore que ça pourrait avoir lieu, un rapprochement entre Euronext et le géant allemand des marchés? Alors, enfin, le géant, l'opérateur allemand des marchés.
Je suis assez pessimiste parce qu'effectivement, le veto européen risque d'arriver. Mais par contre, c'est vrai que je pense que sur le fond, ça serait une très bonne chose pour l'Europe, qu'ils arrivent à s'entendre et qu'ils arrivent à avoir un pôle extrêmement fort sur l'Europe pour faire face aux mastodontes américains ou anglais.
Mais est-ce que l'Europe s'y opposerait en disant « Ah non, non, c'est trop gros, là, il faut plus de concurrence. » Est-ce que voilà, un groupe un peu puissant, ça ferait peur et du coup, ça entraînerait une levée de bouclier des institutions européennes alors que l'Europe a besoin de puissance, au contraire. Et voilà, la question reste sur la table. En tout cas, ce soir, après sa publication, Euronext gagne 5%. Etienne, est-ce qu'il faut accompagner la hausse pour la suite ?
Oui, Euronext est un excellent dossier. D'ailleurs, on l'a en portefeuille. Et c'est vrai que c'est une position difficile dans laquelle elle est, puisque c'est un serial acquéreur qui est en train de vraiment consolider une activité dans un marché européen qui est encore fragmenté et dans lequel chacun veut planter son petit drapeau et conserver son petit drapeau national sur ses institutions. Et comme le dit Stéphane Boujna dans Learning Call et très récemment, qui est des résultats, il expliquait que bah, dans une opération M&A, il y avait un acheteur, mais il fallait aussi un vendeur qui était OK pour vendre. Mais en tout cas, la publication, elle est excellente. Encore une croissance à deux chiffres. Et on a une vraie validation de la réorientation du business model de Euronext pour qu'il soit moins sensible à la volatilité du marché, avec un développement très conséquent des activités post-trade, ainsi que du côté des ETF. D'ailleurs, toute la partie post-trade de Euronext, elle vient désormais faire presque 50% du volume d'affaires de Euronext et couvre déjà à eux seuls plus de 150% des charges opérationnelles. Donc on a vraiment une transformation qui s'opère très bien et des intégrations de bourses qui se passent relativement bien aussi. Clairement acheteur sur le dossier.
Clairement acheteur. Vous aussi Thibault, clairement acheteur. Bon, on va voir si tout le monde est d'accord là. Il manque encore l'avis de Romain Daubry et vous savez que son avis compte double. Il est seul face à vous, c'est voilà la lecture graphique des marchés, mais son avis compte double. Romain, est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il faut être acheteur sur Euronext ou au contraire, vous venez apporter un avis différent ?
Bien, pour tout vous dire, j'avais un petit signal baissier sur Euronext qui devait renvoyer le titre aux alentours de 132. La clôture du jour est en train de l'invalider. Tant qu'on est au-delà de 147,20, et c'est le cas en clôture, 147,60, ben effectivement, on pourrait sortir d'une grande congestion qui date pour Euronext de mars 2025. On est calé entre 116 et 147. Et dans ce cas-là, eh bien, on a un mouvement haussier complémentaire qui pourrait nous mener jusqu'à 177. Donc, pour l'instant, c'est du mieux depuis cette publication.
Bon, une pépite pour la suite, comme ça, avant de parler d'NVIDIA, du secteur automobile aussi, parce que Stellantis fait rentrer un Chinois dans une de ses usines à Rennes, figurez-vous. Mmh. Avant d'en parler, donc, une pépite, un acteur de marché dans lequel vous croyez pour la suite. Thibault.
On screen pas mal le marché en ce moment pour regarder un petit peu ce qui a pas forcément bien marché, ce qui a bien publié et en fait les atouts de certaines boîtes. On a regardé un dossier qui s'appelle Mint, c'est un distributeur d'énergie, d'électricité qui fait de très bonnes publications depuis plusieurs années et c'est un dossier sur lequel qui est assez intéressant parce que la trésorerie nette du groupe est supérieure à la capi boursière du groupe. C'est-à-dire que bon, ce sont des petites capitalisations, donc bien sûr, faut y aller avec parcimonie en termes d'achat et de vente parce qu'il y a beaucoup de volatilité et la fourchette est assez large. Mais c'est un titre qui aujourd'hui a plus de 30 millions d'euros de trésor net et qui fait moins de 30 millions d'euros en bourse, alors qu'elle est rentable, elle dégage du cash flow et les perspectives de Mint sont plutôt intéressantes. Donc ça fait partie des dossiers qu'on aime bien aujourd'hui et je pense que elle est à redécouvrir. C'est un dossier qui s'appelait Budget Telecom à l'époque, donc sur la partie, c'était il y a quelques années quand même, donc dans le sud de la France, et qui s'est transformé sur la partie électrique, et qui nous semble plutôt intéressant à suivre pour les prochaines années.
Voilà, pour ceux qui veulent diversifier, c'est la diversification. Etienne, même question, est-ce qu'il y a une pépite comme ça avec vos équipes chez Zone Bourse que vous estimez mériter d'être mise en avant ce soir ?
Alors, si pépite, ça veut dire petite cap, bon, je serai hors sujet, mais moi, celle dont je vais parler aujourd'hui, c'est Microsoft. Voilà, tout simplement. Oh. Surtout dans le contexte de marché actuel, bon, on sait qu'il y a clairement très peu de secteurs qui vont bien en ce moment et qui tirent les marchés à la hausse. Et Microsoft est à cheval un petit peu sur ces thématiques-là. Et pourtant, c'est un cours qui est beaucoup plus simple à acheter que les autres acteurs du monde de l'IA. Je trouve que c'est assez effarant qu'aujourd'hui Microsoft s'échange à des forward PE aux alentours de 20-22 et je trouve le dossier extrêmement attrayant. D'ailleurs, Bill Ackman a vendu du Google pour acheter du Microsoft. On l'a vu dans les news récemment.
Je ne veux pas du tout casser l'ambiance chez Zone Bourse, mais il me semble qu'il y a quelques jours, Tommy Douziège, qui est votre collègue, nous disait, on lui demandait entre Alphabet et Microsoft laquelle il faut privilégier pour le moyen long terme, quand on ne parlait pas pour la séance du jour. Et il nous disait, non, mais Microsoft, faut oublier, il faut aller sur Alphabet. Vous dites l'inverse. On ne veut pas casser l'ambiance.
Mais voilà. Ça nous arrive de ne pas être d'accord. Et ça nous arrive de ne pas être d'accord et c'est ce qui fait la beauté de notre équipe de gestion.
Je crois. Ah oui, c'est bon. Il y a tous les avis. C'est ça le marché. Il n'y a pas de vendeur sans acheteur.
Ah, il y a un acheteur, il y a un vendeur. Hein,
mais forcément.
À la même minute.
Alors voilà, est-ce qu'il peut être les deux à la fois, lui aussi, en faisant jongler les graphiques? D'un point de vue graphique, Romain, Microsoft, qui est quand même en sous-performance incroyable historique face au Nasdaq 100. On est sur la pire sous-performance depuis quelques semaines de Microsoft face au Nasdaq en 6 ans. C'est pas rien. Est-ce que d'un point de vue graphique, vous estimez que oui, ce titre est maintenant armé pour repartir de l'avant, comme le pense Étienne?
Mais oui, il y a un signal graphique qui s'est déclenché maintenant il y a quelques semaines, hein, depuis la fin du mois de mars, comme sur l'ensemble des techs, sauf qu'effectivement, Microsoft, on ne comprend pas pourquoi elle bute contre cette résistance à 428. Donc, on avait recommandé aussi l'achat. La cible, elle est relativement proche, mais c'était entre 465 et 475. Et effectivement, on s'explique mal cette sous-performance du titre qui n'arrive pas à déborder ce niveau complémentaire. Donc, un début de réaction haussier, mais qui est bien moindre que les autres. Donc oui, acheteur, tant qu'on est au-delà de 409.
Ce soir, Nvidia. Nvidia va publier ses résultats après la clôture de Wall Street. Le marché semble vouloir y croire puisqu'il y a des paris haussiers. Là, le titre gagne 2% cet après-midi. Nvidia, donc, on est maintenant à un peu moins de 5 heures de sa publication. Est-ce que vous pensez qu'Nvidia, avec ses petits bras bien costauds, on est d'accord, mais avec ses petits bras, pourra redonner de l'optimisme au marché alors que les taux obligataires sont élevés, inquiètent les investisseurs? Est-ce qu'Nvidia arrivera lui tout seul à faire oublier le marché obligataire et à redonner de l'allant au marché d'après vous? Thibault.
Ben, en fait, Nvidia va donner là. C'est-à-dire que si Nvidia surprend positivement le marché, et pourtant le marché est déjà extrêmement positif, ça voudra dire que la demande est toujours extraordinaire sur l'ensemble du secteur, et donc forcément ça va embarquer toute la partie tech, toute la partie IA, que ça soit aux États-Unis ou en Europe. Donc on va forcément regarder et épier un petit peu ce qui va se passer ce soir. C'est extrêmement important pour que le mécanisme et le momentum reste extrêmement favorable sur la partie techno. Il va falloir qu'Nvidia prouve, et c'est vrai que ces dernières publications, ils prouvent plutôt à la hausse et ils confirment chaque trimestre les perspectives de croissance. Et on s'aperçoit que tout le monde en bénéficie, et notamment le secteur techno américain.
Ah oui, bien sûr, ça reste vraiment une valeur qui tracte l'ensemble de ce secteur. Nvidia, on verra ce qu'ils disent aussi sur la Chine, hein, parce que cette rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, c'était à Pékin, ouvre peut-être la perspective d'un retour d'Nvidia en Chine. On verra, mais oui. Jensen Huang, de retour de Pékin, disait « on y croit, on pense qu'on arrivera à nouveau à exporter peut-être nos meilleures puces en Chine à suivre ». On verra ce qu'en dit Nvidia. Est-ce que vous êtes optimiste, en tout cas vous, Étienne, sur cette publication? Est-ce qu'à lui seul, Nvidia fera oublier les inquiétudes du marché?
Non, je pense que le timing n'est pas excellent pour cette publication, et je pense pas que réellement la surprise comptable soit le point important de cette publication, parce que effectivement, si on regarde l'agenda des publications trimestrielles historiques, les taux de surprise sont constamment positifs, donc l'entreprise nous a habitués à surprendre les analystes. En revanche, c'est pas toujours que la réaction n'est pas toujours haussière, elle est même très souvent flat, voire baissière. Et là, si on regarde du côté du marché des options, on a de nouveau un biais plutôt baissier avec une volatilité attendue de 6,5%. Je pense que le dossier est excellent, encore une fois, à moyen terme, long terme, même si aujourd'hui, il n'y a plus personne qui croit à des marges nettes supérieures à 50% au-delà de 2030. Ça ne se voit pas dans le résultat net. Pourquoi ? Parce que le chiffre d'affaires compense, la hausse du chiffre d'affaires compense, mais ça se voit dans le ROE, la rentabilité des capitaux propres, qui passe de 90% l'année dernière à ce qui est attendu pour 2030. On parle de 45-50%, quoi. Donc il y a vraiment une baisse de la rentabilité, ouais. c'est pricé, je pense, c'est pour ça que le titre s'échange à 20 fois les bénéfices de l'année prochaine. Mais là, je rentrerai pas sur le titre actuellement, juste avant la publication, ça c'est hors de question.
Tiens, il y a Crypto, il y a des codes qui réagissent sur Nvidia, sur le Félix BFM Bourse, il nous dit quoi? Nvidia a plus de 4000 milliards de dollars, je le cite, cet auditeur. Nvidia a plus de 4000 milliards, c'est le mec en soirée qui a déjà bu tout le champagne et qui te dit qu'il est encore sobre. Oh, c'est dur. Non, mais franchement, il délivre Nvidia. Graphiquement, Romain, vous êtes plutôt dans le camp de ceux qui ont confiance pour ce soir ou de ceux qui restent prudents?
Graphiquement, elle a donné une impulsion haussière en débordant 208 le 7 mai dernier. Elle est sortie d'une congestion qui datait d'octobre. La cible technique suivante, c'est 246,60. En termes de comportement, effectivement, on a 5 acheteurs pour un vendeur en termes de ratio put-call sur les niveaux actuels. Ça signifie que la surprise positive devrait être gigantesque pour trouver de nouveaux entrants. tout le monde est d'accord, tout le monde est positif sur le dossier. Donc, je rejoins l'avis d'Étienne. En effet, ça va être difficile de trouver beaucoup de momentum à la hausse encore, même si pour l'instant, un signal graphique qui est intact. Cet, attention, sous 208.
Cet autre auditeur nous écrit, c'est Laurent sur LinkedIn, à propos du titre Vertiv. Elle est pour vous, Étienne, cette question. Vertiv Holdings, depuis le début de la semaine, l'action enchaîne des baisses, des fortes baisses, perdant même 10%. Vertiv Holdings, moins 10% en quelques jours. Quelle est la raison de cette baisse? Est-ce que vous voyez un rebond possible, Étienne?
Je vais parler pour les HVAC de manière générale, donc cette catégorie d'entreprises pelle et pioche de la chaîne de valeur IA, donc Vertiv, Amphenol, Comfort System, c'est un peu tous les mêmes dossiers. Effectivement, une correction assez importante sur le titre. En fait, je pense qu'à défaut, clairement, à défaut de pouvoir payer des modèles providers sur la chaîne de valeur IA, aujourd'hui, le marché, il a eu tendance, on va dire, à surpayer les pelles et pioches. Et on arrive sur des ratios de valorisation qui sont plus difficiles à acheter pour ces HVAC qui s'échangent, qui sont, il faut le rappeler quand même, des valeurs industrielles qui s'échangent aujourd'hui à des forward PE de 50, quoi. Donc, je pense qu'il faut laisser place à la consolidation. Aujourd'hui, c'est très difficile de rentrer sur un dossier comme ça. Et quand on l'a en portefeuille, on le conserve, mais on s'attend pas à ce que ce soit les meilleurs perfs.
Et justement, Étienne, on reste dans la tech américaine. Juste pour terminer, là, dans la tech tout court, il y a un ancien chercheur d'OpenAI qui, figurez-vous, a créé son hedge fund. C'est toujours intéressant de voir comment un ancien chercheur d'OpenAI, qui a quand même lancé l'intelligence artificielle auprès du grand public, OpenAI, voit l'avenir de la tech. Et là, son hedge fund a publié ses performances, ses choix d'allocation du premier trimestre. Donc, on y voit clair sur la vision de cet ex-chercheur d'OpenAI sur l'avenir de la tech. Quelles leçons vous en tirez? Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans ces choix d'allocation-là?
Oui, alors cette publication, elle est extrêmement attendue. On dit un ancien chercheur d'OpenAI, mais il faut rappeler quand même que Leopold Aschenbrenner, il a 25-26 ans. Il a intégré l'équipe Super Lineman de OpenAI, il avait 22 ans. Donc quand on dit ça, ça veut clairement dire que niveau du spectre de QI, il est de l'autre côté du graphique. C'est quelqu'un qui a monté un hedge fund et qui a réussi à lever 1 milliard sur la base d'un white paper qui faisait 150 pages. Il fait partie des 300 personnes de la Silicon Valley qui ont la connaissance, qui ont l'insider information sur tout le segment IA. Maintenant qu'il est gérant de hedge fund, en plus, il y a tout le monde qui lui souffle à l'oreille. Il a fait des choix absolument énormes sur les derniers trimestres. Et là, il vient de publier un 13F qui laisse penser, enfin pas qui laisse penser, qui montre qu'il y a une très grosse prise de parti de couverture sur la thématique dans laquelle il est le spécialiste, c'est-à-dire la thématique IA. Ce qu'on voit, c'est des grosses entrées de put sur les valeurs les plus liquides du segment IA. Il faut faire attention à cette publication. Il faut surtout pas croire qu'il a un biais baissier sur ces titres en particulier. Hein, et je parle là de Broadcom, Oracle, Nvidia, etc. C'est juste qu'il a cherché en fait les puts les plus liquides pour se protéger. Et on voit qu'il reste sur sa partie longue, equity, donc sur ses achats. Il n'a pas fait vraiment énormément de changements. Il a juste lâché la photonique avec les dossiers extrêmement bien valorisés. Ah oui. Mais il reste toujours long sur SanDisk, Bloom, etc. Donc il est toujours long sur l'IA de manière générale. Et de toute façon, son white paper le disait qu'il serait long pendant des années encore. Mais par contre, il se couvre à court terme et ça va donner un très fort signal au marché. Même si aujourd'hui, ses puts sont perdants.
Voilà, il faut le dire, c'est intéressant de regarder.
Ultra intéressant.
Effectivement, c'est l'insider là, voilà. Effectivement. Dans la tech, ouais, la tech ça monte, mais il faut de plus en plus faire tourner au sein de la tech. Hein. C'est ça qu'on peut aujourd'hui se dire, effectivement. Merci beaucoup à Étienne. Étienne Monceau qui nous accompagnait pour Zone Bourse. Merci à Romain Dobry qui lui aussi est de l'autre côté du graphique en termes de QI. Merci beaucoup Romain de nous avoir accompagné dans l'univers graphique des marchés avec nous depuis Zone Bourse, depuis Bourse Direct. Pourquoi il y a Bourse dans tous vos noms d'entreprise là? C'est pas original. BFM Bourse, ça s'appelle. Ah ben oui, il y a Bourse. À demain Romain pour nouvelles aventures et merci à vous parce que vous, il n'y a pas Bourse dans votre nom.
Il n'y a pas Bourse.
Fastia Capital. Assumer le capital.
Exactement, on assume.
Thibaut François. Merci Thibaut de nous accompagner si régulièrement et ici en plateau. Le CAC 40 ce soir gagne 1,7%. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.